Mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue pour la sixième de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle
peut.
Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai 2003 pour une émission enregistrée dans des conditions du direct.
Enregistrée d'ailleurs.
Enregistrée ce coup-ci.
Enregistrée, oui.
On vous expliquera plus tard. Donc, c'est une émission que vous pouvez télécharger comme bon vous semble. Via le site internet www.quoique.org, mais ça, si vous nous écoutez, vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, on va vous parler des médias. Donc, et pour ça, on a récupéré un petit peu tout le monde. Notamment, on a récupéré quelqu'un qui était parti faire des conférences à travers le monde à Arles sur des thèmes tels que l'invincibilité de l'esprit face au contenu d'un cubit de vin. Il nous revient, c'est Darty.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Darty. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Darty?
Mais donc je vais vous parler du reporter c'était un fanzine en fait qui était distribué sur disquette dans les années 90 en fait. Donc vous verrez que c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec un petit peu d'imagination.
D'accord. Ben merci. Après Valérie.
Bonjour.
Salut.
Bonjour, qui va pas nous parler de son quartier aujourd'hui mais d'un magazine qu'elle a peut-être lu chez sa coiffeuse.
Je l'ai acheté. Il s'agit du Nouveau Détective. J'ai acheté ce journal. Je vais vous parler de tous les articles. Vous allez voir que ça sera plus la peine que vous l'achetiez après.
C'est mieux qu'Info du Monde.
Le problème, c'est que ça se base sur des trucs soi-disant vrais, alors qu'Info du Monde, c'est fait pour être rigolo.
Voilà.
Là, c'est français en plus.
Donc d'ailleurs, Flo, puisque tu la ramènes, donc après, ce sera toi. Bonjour Flo. Donc toi, tu vas nous parler d'un film qui sort pas de cinéma d'arrêt d'essai ce coup-ci.
Non, c'est un film américain en fait. Ceux qui auraient entendu le premier départ, quoique saurait que on va parler du héros de Stalag 13.
Stalag 13 ou Papa Schultz.
Non, voilà. C'est pas Papa Schultz.
Hogan's Heroes.
Ouais, mais c'était la même série, non?
Ouais, c'est pareil.
Ouais, d'accord. Donc j'ai pas que tort.
Ouais, enfin, Papa Schultz, c'est quand même vachement sympa dans le film.
C'est pas un film d'arrêt et essai, mais il marche pas très fort.
Il est un peu trop bien fait, peut-être.
Ouais. D'accord, on attend ça avec impatience. Et après, Béatrice, qui revient de Bretagne aussi.
Oui. J'allais prendre l'air.
Elle a pris l'air. Le vent, il n'y a pas besoin d'aller loin pour prendre l'air. Voilà. D'accord, et toi, tu vas nous parler de la télé, les médias, les informations, tout ça.
Les infos à la télé, ce qui m'énerve dans leur façon de traiter les infos à la télé.
D'accord. Et après, on finira par, ou presque, par Numa, qui va nous parler aussi de la télé.
Oui, avec...
C'est de la littérature, normalement, que tu fais.
Oui, pareil, ouais.
Ouais.
Donc avec un petit livre rouge écrit par Pierre Bourdieu qui s'appelle « Sur la télévision ».
D'accord.
Il y a presque un peu plus d'enthousiasme que tout à l'heure.
Ouais, c'est pour ça qu'il est rouge.
Oui, c'est pour ça qu'il est rouge.
Et il y a marqué sur la télévision Pierre Bourdieu. Voilà,
c'est le titre.
Ah d'accord, donc tout s'explique.
Voilà.
Et puis on aura aussi Cray qui nous a fait une chronique sur « J'arrête de faire de la radio » et donc il a fait un cas pratique. Il a arrêté de faire de la radio, il est absent. Donc on peut l'applaudir quand
Bravo.
Même.
Bravo.
Bravo.
Quelque chose qui réussit.
Mais on peut le siffler un petit peu parce qu'il est absent et les absents ont toujours tort. Voilà.
S'il vous reste des oreilles, vous avez vraiment de la chance. Hein.
Je parie qu'il a recommencé à fumer et à grossir du coup.
Oui, c'est possible. Ouais.
Bah non, s'il a recommencé à fumer, il va peut-être arrêter de grossir.
Arrêtez de maigrir.
Faut choisir.
Oui, arrêtez de maigrir.
Donc alors aujourd'hui, donc on va parler des médias. Donc je vais essayer un petit peu de débroussailler tout ça avant qu'on commence à la débroussailleuse. Donc pour expliquer qu'est-ce que c'est réellement les médias, donc j'ai trouvé une phrase très simple qui explique tout. Alors les médias peuvent être définis comme un équipement technique permettant aux hommes de communiquer l'expression de leur pensée, quelle que soit la forme et la finalité de cette expression.
Alors, c'est clair. J'aimais bien fénénalité, là, c'était pas mal le mot.
Je vais peut-être pas parler de mon sujet, puisqu'il s'agit d'un journal dont les journalistes ont absolument. Ils ont pas de cerveau, je pense, ils ont pas d'idées.
Mais c'est pas ça, c'est les médias.
Et alors, bah, les escargots, ça a pas de cerveau, ça vit bien.
Non, mais gens qui lisent, ils en ont un.
Ils peuvent pas communiquer des idées, ces gens-là.
Concrètement, les médias, c'est tous les supports de transmission de l'information. C'est pas l'information. C'est le support de transmission.
Ouais. Donc, ouais, t'es en train de dire
c'est-à-dire que la radio, la télévision, voilà. Les journaux, les affiches, Internet, même le téléphone, tout ça, ce sont des médias. Donc, c'est pas de l'information. C'est
non,
comme
ce sont des supports d'information.
Un train, c'est pas un voyageur. Non, mais t'as parlé c'est le support du voyageur, le train.
Tu as parlé de communiquer des idées. Mais il faut avoir des idées pour communiquer.
C'est
des idées.
L'équipement même si on technique qui permet oui, de communiquer.
Mais même si on les trouve connes, les idées.
L'expression de leur pensée.
Ouais, du voilà. Sang,
donc,
du sang.
En fait, l'étiquette Pinot des Charentes, là, qu'on voit sur la bouteille, en fait.
C'est un média.
C'est un média,
mais tout à fait.
D'ailleurs, Numa, tu veux du bourgris parce que t'es vide.
Ah oui, je suis
tout
vide.
Tout à fait. Donc, on peut distinguer trois grands types de médias. Trois manières différentes. Donc, il y a d'abord ce qu'on appellera les médias autonomes. Alors, les médias autonomes, c'est les livres, les journaux, les CD, les DVD, les cassettes. Donc, en fait, ça, c'est
des. Les étiquettes aussi.
Oui. C'est des médias où il y a besoin d'une volonté du récepteur, c'est-à-dire qu'il faut aller le chercher. Donc il faut aller le chercher, c'est un média qui est toujours disponible, on le lit quand on veut, où on veut, et on ne l'a pas en direct. Contrairement aux médias de diffusion, qui sont la télévision, la radio, où là l'information est disponible à un moment donné. Oui, Darty.
Oui, mais il y a les gens qui font de la radio et l'information est disponible tout le
oui,
temps.
Oui, mais il peut y avoir des mélanges après ces trois grands types... Donc la télévision, la radio, qui sont des médias donc de diffusion, c'est-à-dire des médias qui sont diffusés à un moment donné, ça va dans un seul sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interactivité, c'est-à-dire que le truc arrive et on parle pas en même temps, donc il peut y avoir le courrier des lecteurs dans les journaux.
L'hebdo du médiateur.
Voilà, mais bon, la discussion peut être longue, surtout si c'est un mensuel, hein, donc on peut pas dire qu'il y a une interactivité. Et donc, il y a les médias aussi de communication qui, eux, permettre l'échange, l'interactivité. Donc le téléphone, c'est un média de communication. Donc, c'est-à-dire, il y a un émetteur et un récepteur, et le récepteur peut devenir émetteur et vice-versa. Donc il y a Internet, notamment, qui fait très bien tout ça.
Ah, c'est passionnant. Ouais.
Merci, professeur.
Ouais. Non, les trois sont un peu mélangés quand même. Quoi.
Oui, après, les trois sont on mélange un peu...
Ah oui, j'ai Darty, ouais, mais...
On nous fait croire qu'on peut répondre, effectivement. Après, c'est pareil, Internet, on ne peut pas forcément répondre. Tout se mélange,
dépend. Oui, ça se mélange un petit peu, mais c'est des grandes tendances.
Non, mais trois grands principes. Après, le support, après, t'as aussi une qualité de l'information que tu peux avoir, enfin, qui la caractérise, mais après, le support peut véhiculer plusieurs informations.
Voilà, c'est bien ça. Donc, en fait, quand on entend parler de tout ça, les médias, ça a l'air quand même assez génial. Ça nous permet d'avoir plein d'informations, donc de nous donner des informations, donc de nous rendre moins bêtes, ce qui n'est pas toujours facile. Mais dans la réalité, on s'aperçoit
que... Ça dépend d'où tu pars, en fait. Ouais.
Je veux dire, tu aurais quand même un point de non-retour.
Non, mais là, je trouve qu'on est hyper intelligent, voire chiant depuis le début de l'émission.
Ouais, ouais,
je
non, mais que il faut...
Bien, c'est pénible, là, il faut détendre.
Ouais, ouais, mais...
C'est pour ça que, d'habitude, tu faisais pas de chronique.
Ouais, mais je fais pas une chronique, je débroussaille.
Ouais, c'est pareil, c'est long.
Ouais, mais non, c'est pas long.
Bon, bah, on va la débroussailler, on va faire un sécateur, et puis c'est rien.
Faites gaffe. Non, ça fait que 8 minutes que ça a commencé.
C'est tellement passionnant.
Bah oui. Donc ben bon, comme vous êtes si malin, on va vous laisser commencer maintenant.
Bon oui.
Donc on va commencer. On avait dit par Darty.
Oui, ben on va y aller.
Qui va nous parler donc
du reporter.
Du reporter.
Mais justement, en fait, je vais faire une petite boucle. Je vais parler un petit peu d'Internet en fait avant de parler du reporter, parce que ben évidemment, bon ben, moi je suis spécialisé dans l'informatique pour mes rubriques, tout ça, bidule là. Ben je vais vous parler un peu d'Internet et quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'Internet c'est vachement vieux. C'est un point que j'aime bien faire en fait. Internet, en fait, c'est au départ c'était l'ARPANET, ça a été fait par l'ARPA, qui est un truc américain, c'est un truc de recherche militaire en fait, qui
a été créé en 1950.
Mais ouais, c'est 1970 en fait, premier réseau, enfin c'est décembre 69 en fait, donc 1970 on va dire, où il y a le premier réseau ARPANET en fait, qui bah il réseau ARPA en fait, il reliait quatre universités, celle de Stanford, Los Angeles, Santa Barbara et Salt Lake City. Et donc ça c'était bah c'était Internet quoi, et ça enfin c'est ce qui est devenu Internet plus tard, mais ça existait déjà à cette époque-là. Le premier email c'est 1971. TCP/IP qui est le protocole qu'on utilise maintenant tout le temps.
Et le deuxième email
c'est 74. Eh, je sais pas, c'était peut-être 72, j'en sais rien, mais le temps qu'il fasse la réponse, c'était compliqué à l'époque. Mais, bon mais bon en fait c'est vraiment vieux. Et même tout ce qui est les pages web en fait, ce qui est aujourd'hui bon ce qui est très très médiatisé pour le coup par les autres médias en fait quand ils parlent d'internet, c'est les pages web www.quoique.org dont on n'arrête pas de parler par exemple. Et ben ça en fait ça date de 91 et ça a été inventé en Suisse en fait au CERN, CERN, c'est un truc où ils font des recherches sur les particules et tout, puis bon il y a un mec qui a inventé internet là-bas,
et enfin, pas internet mais les pages web.
Donc voilà, c'est vraiment mieux. Donc Internet, en fait, c'est, ben on va le voir, en fait, c'est très très adapté au partage d'informations. Mais en fait, par rapport à ce que disait ton verre, en fait, il y a vraiment tous les types de communications qui sont possibles. Aujourd'hui, en fait, ce qui fait beaucoup de foin, en fait, c'est tout ce qui est commerce électronique et autres. Et on s'aperçoit en fait que le réseau Internet n'est pas du tout adapté à ces conneries, en fait. Il est absolument pas sécurisé dans le bon sens, etc. Par contre, mais en fait, il est répandu partout. Donc c'est ça qui intéresse les gens. Ils disent, moi, je peux toucher tout le monde. Donc ils t'envoient des mails pourris avec du spam dedans, de la pub à la con.
Tous ceux qui ont Internet.
Ouais, mais non, mais enfin les tu sais les multinationales habituelles, qui est le roi de la communication, machin, ils bombardent tout avec des conneries. Mais objectivement, c'est pas fait pour eux normalement. Et voilà, donc vente de contenu numérique, ils y arrivent pas parce que ils y arrivent pas sans restreindre les libertés à mort, etc. Et aussi une des grandes qualités d'Internet et qui est un grand défaut pour toutes les multinationales et les cadors de la com en fait, c'est que et ça c'est très important en fait sur Internet, monsieur tout le monde en fait est potentiellement aussi visible que Coca-Cola en fait. C'est-à-dire que tu fais un site web, en fait, il est accessible par tout le monde qui a Internet tout de suite, dès le début, en fait. Et ça, c'est une donne qui est très très différente par rapport aux autres médias. Parce que sur un autre média, en fait, pour pouvoir diffuser à 1 milliard de personnes, il y a peut-être pas aujourd'hui 1 milliard de personnes connectées à Internet, il y en a beaucoup moins. Mais il faut vraiment imprimer des tracts et tout, et c'est compliqué.
Et donc c'est pour ça qu'ils maintenant ils payent les moteurs de recherche pour avoir leur site en tête.
Exactement, mais oui, parce que voilà, tout à fait. Donc ils se disent, ah ouais, mais normalement c'est nous les gens importants, donc ils essayent de se mettre en valeur.
Donc tu payes, donc tu tapes pour un mot, puis hop, par exemple voiture, voilà. Puis hop, t'as une marque de voiture qui a payé, puis hop, qui est en tête.
Voilà, exactement. Mais bon.
Alors que c'est quand même con parce qu'il y avait peut-être Monsieur Dupont qui te parlait de sa dernière 205 et puis tu rates ce site-là.
Tout à fait.
Il y a peut-être la voiture 4.
Et donc ouais, en baladant sur Internet, en cherchant des sites, hein, n'est-ce pas Numa, hein, tu suis un peu quand même là.
Un peu, ouais.
Bon, d'accord, merci. Je suis tombé sur un truc très très intéressant. Des gens qui n'ont pas attendu Internet pour communiquer en fait.
Il y en a beaucoup.
J'ai oublié de dire. Non mais pour communiquer informatiquement quoi.
Ah oui, on parlait du vrai monde. Excuse-nous.
Que les gars ils aillent au bar et qu'ils boivent des coups. Bon, mais je veux bien. Mais bon, ça c'est à la regarde. C'est la communication. C'est une forme de communication tout à fait honorable.
C'est très efficace.
C'est au moins on communique efficacement. On se rappelle pas de tout ce qu'on a dit, mais
c'est pas grave. C'est gravé.
Il y a deux types de communication. Comme il y a trois types de médias, il y a deux types de communication. Il y a l'informatique et parler au bar. Voilà c'est tout ce qui existe dans la vie de Darty comme communication.
Bon, je te parle un peu du coup. On n'est pas là pour parler de ça. Hein. On est pas là pour...
Au bar ou par mail
3615, code ma vie, ça suffit. Hein. www.codemavie.org, ça suffit.
Le 2 février 94, il y a un certain François Sanchez en fait, qui a eu l'idée de créer un fanzine. Vous voyez les fanzines un peu ce que c'est en fait c'est...
Oui.
Bon, ok. Bah, alors je vous explique pas.
Il y a pas du tout.
Explique pour Béa quand même.
Mais en fait, les fanzines. Alors justement, je comptais sur quelqu'un pour m'expliquer un peu ce que c'était, voilà. Parce que moi, j'avais pas de définition officielle du fanzine. Bah globalement, c'est un mini journal que tu fais avec tes amis où tu diffuses un tas de choses. Tu vois, t'en as qui sont développés dans les écoles, des groupes de copains.
C'est une photocopie pourrie qu'on te file à la sortie du rue.
Voilà.
C'est un magazine édité par des amateurs.
Ouais.
Ça peut être dans le quartier, ça peut être à la fac, ça peut.
Ouais. Donc voilà. Et lui, en fait, comme il était informaticien de son état, en fait, passionné d'ordinateur, il s'est dit, je vais diffuser ça via, mais sur disquette, en fait. Donc en fait, c'est assez curieux comme mode de diffusion en fait. Ils diffusaient ça carrément en fait. C'est un petit programme en fait. Donc t'avais la disquette et puis t'as un petit programme et tu lances le programme et hop, t'as des menus et tout et puis tu peux y aller. Ils donnent de l'info et puis tu peux te balader dedans. Donc c'est vraiment c'est
un peu l'ancêtre du DVD.
Ouais non c'est et alors donc ben alors moi j'ai regardé le numéro 1 en fait, puisque j'ai téléchargé les numéros en fait donc
quelle taille de disquette
je sais pas 3 pouces et demi quoi normal une disquette
bah, je sais pas, de moi je peux pas savoir si c'est une 3 pouces et demi une 5 pouces un quart
oui, bon, on s'en fout
ce que tu veux ouais enfin voilà.
Non c'est important
parce donc
pour le savoir premier... si on peut la plier ou pas
il y a un moment où tu peux plus l'utiliser ta disquette
donc je vais vous parler rapidement du premier numéro. Alors il fait un petit historique tout ça où il raconte il explique ce que je viens de vous expliquer en fait quelque part un petit édito etc donc ensuite bon il y a des articles de programmation alors évidemment c'est un truc c'est orienté informatique hein, alors ça c'est on n'y coupe pas donc mais avec des articles moi je les ai lus en fait des trucs mais vraiment bien en fait qui sont qui ont absolument pas du tout à rougir de ce qu'on pouvait trouver dans la presse spécialisée à l'époque en fait c'est vraiment très bonne qualité. Donc ensuite il y avait une section carte blanche donc avec des éditos, des coups de gueule des gens, etc. Une interview d'une entreprise qui vend des logiciels, un petit débat une petite section débat et dossier. Donc avec un truc par exemple ce que l'assembleur peut faire pour vous.
Ça se lit comme un roman ça.
Vous n'y pensez pas, mais n'empêche que.
Et ça date de quand exactement
de février 1994.
Oui mais j'avais oublié.
Bon oui non c'est vrai que bon. Tu vois pourquoi on communique pas parce que forcément tu oublies tout alors. J'y peux rien.
Bon, je pense que c'est le moment en plein émission de fin de
ménage. Dans débat et dossier, il y avait aussi une fable en fait, le Martien et le Mouton. Donc je vous donne le début de la fable.
Oh oui.
Seul dans sa prairie, broutant et bêlant à tout va, le mouton se dit un jour qu'un tas de ferrailles ferait bien l'affaire chez lui, afin de pouvoir en un tour de main se compter lui et ses siens avant de s'endormir. Rempli de slogans Atari, cervelle débordante de gling gling, il se dit. Vous téléchargerez le reporter si vous voulez voir la suite, mais c'est pas mal, hein, c'est une belle fable, faut y aller. Hein, c'est plein d'Atari.
Mais tout, on n'est pas obligé.
Il y a des Falcons. Ouais, voilà. Donc ensuite, il y a une petite section technique où il y a toute une section sur les smileys. Vous savez, les smileys, c'est les trucs qu'on met à la fin des mails, genre point virgule, tiret, et puis parenthèse, et puis ça fait un mec qui cligne de l'œil. Alors voilà, donc j'ai trouvé un smiley là-dedans, mais il y en avait plein. J'en ai trouvé un qui devrait vous intéresser. C'est alors c'est deux petits points, espace, étoile, fermé la parenthèse. Ça veut dire que le mec écrit, il est bourré. C'est pas mal comme smiley.
Deux petits points.
Ah t'as vu, hein, il ça m'intéresse. Je l'aurais dit tout de suite, il aurait écouté. Deux petits points, espace, étoile, fermé la parenthèse.
Petit point, espace, étoile, fermez la parenthèse.
Voilà.
Note bien.
Donc ensuite, il y avait une.
De petits points, espace, étoile, ouvrez la parenthèse. C'est le mec qui est bourré, mais qui a l'alcool triste. Donc.
Ouais. Et puis, mais on va pas rentrer dans les détails non plus, quoi. Parce qu'après, ça va.
Il faut qu'il s'en rappelle pour le noter. Ouais.
Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder. C'est pas mal, en fait. Il y en a plein. Ensuite, une section, dans la section technique, il y avait aussi, littérature informatique, où il y avait plein de bouquins. Il y avait une section démo, mais qui était vide, parce qu'il n'y avait pas eu de contributions. Parce qu'en fait, il fonctionnait avec un mode, les gens, envoyaient des contributions, puis après, c'était mis. Là, c'était le premier numéro, donc forcément, il y avait beaucoup de contributions, évidemment. C'est fatal. Donc, des petites annonces, ou des gens qui vendaient du livre, du matos, des logiciels, des questions-réponses. Mais c'était normal, évidemment. C'était le premier courrier, donc, forcément, hein, bon. Des numéros de RTC, parce qu'avant qu'il y ait Internet, RTC, en fait, c'est, avant qu'il Internet. Vous imaginez quand vous connectez sur Internet, vous appelez Wanadoo en fait et vous êtes relié sur Internet. Mais avant qu'il y ait Wanadoo et ses abrutis qui fassent des trucs, il y avait des gens en fait qui avaient des serveurs. En fait, tu téléphonais chez eux, puis de l'autre côté, eux ils avaient un ordinateur, donc t'étais pas sur Internet, t'étais sur un ordinateur, mais eux ils avaient des fichiers, tu pouvais partager, discuter avec tous les gens qui avaient. Donc voilà, donc ils donnaient les numéros de téléphone comme ça et tout, donc c'est cool. Et puis voilà. Et puis bon, plein de choses. Donc j'ai regardé aussi le numéro 9, le dernier, parce qu'il y a eu 9 numéros, et le dernier, le 9 en 95. Donc voilà. Donc c'est un petit peu plus joli, il y a une version DOS, une version Windows. On peut s'abonner, par exemple.
Au dernier numéro.
Il n'y avait pas une version Linux.
Il s'aurait pu, mais c'était balbutiant à l'époque. Hein. Il y a une vingtaine de rédacteurs en tout. Donc là, c'est l'époque de Windows 95, de l'internet. L'internet commence vraiment à marcher. C'est un peu ce qu'a tué ce fanzine aussi, quoi. C'est que, au bout d'un moment, la diffusion par disquette, là, ils faisaient ça. Bon, ils ont réussi même à être publiés dans des magazines, en fait, à une époque. Enfin, inclus dans les sérums de magazines, mais. Une fois que t'as Internet, ce truc-là a plus vraiment de...
Mais ils se sont pas recyclés sur Internet, justement, non?
Non, pas spécialement. Mais enfin, ils ont continué à œuvrer chacun dans leur coin, mais ils ont, enfin, la structure en tant que telle a explosé, en fait. Et voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça assez sympa, en fait. Puis il y a une foule d'informations maintenant. Il y en a pour des heures à consulter ça. Donc là, j'ai regardé le 1 à peu près en détail et j'ai survolé le 9, mais je vais me faire tous les autres bientôt. Là, ça va m'éclater comme un fou. Et alors, comment je suis tombé là-dessus en voyant passer une news sur un site qui s'appelle LinuxFR, en fait, qui est un site de mecs qui racontent des trucs, quoi. et sur Linux, et puis en France, voilà. Et donc, en fait, il y avait un lien vers le site, vers un site qui parlait lui-même du reporter, qui est maintenu par un ancien rédacteur officiel, et qui avait lui-même retrouvé les vieux numéros sur 3614 Code Teaser, en fait, enfin sur, c'est la société France Teaser qui lui avait filé. Et là, en fait, ben, je me suis dit, en fait, c'est ça qui est pour moi génial dans Internet, c'est qu'on peut vraiment trouver des trucs potentiellement complètement introuvables. C'est-à-dire que c'est un truc de 1994-95 qui était diffusé sur disquette et qui a été éventuellement, enfin, les mecs qui discutaient sur Minitel, etc. Et aujourd'hui, en fait, on peut encore le trouver, l'utiliser, le consulter, etc. Et je trouve que là-dessus, en fait, comme média, Internet est assez génial. On lui reproche assez souvent d'avoir une assez mauvaise mémoire, en fait, parce qu'il change tout le temps, en fait. Il y a les contenus sont, arrêtent pas d'être changés. On revient 3 ans plus tard, tout ce qui pouvait y avoir a changé de place ou a pas disparu. Mais quand même, on peut trouver plein d'informations, et ce que j'apprécie, c'est qu'on peut trouver son information. La grande différence de plein d'autres médias, vous pouvez regarder sur la radio, on a un choix entre 20 stations, peut-être 30 stations, si on a du pot, si on a plein de FM, on a 100 stations, mais au bout d'un moment, on n'a plus le choix, en fait.
Tiens. Ah. Un chapeau qui tombe.
Il pleut des trucs.
Le coup du chapeau.
Ouais. Bien connu.
Et ça, je trouve que c'est une des particularités, c'est qu'on peut vraiment choisir son contenu. En fait, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'informatique. Le reste, je m'en fous. Enfin, pas complètement.
Mais ce que non, il y a le bar aussi qui te plaît.
Ce que tu dis, c'est valable aussi pour les livres. Hein. Tu vas dans une bibliothèque, tu peux choisir plein de livres.
Tout à fait, tout à fait.
Ça, c'est plus... un média autonome, donc.
Tout à fait, mais.
C'est plus riche en sujets non informatiques.
Je suis pas sûr, en fait, parce que moi je m'intéresse vraiment qu'au sujet informatique, mais t'as plein. Mais le livre, c'est clair que c'est assez agréable aussi, mais enfin moi j'ai l'impression que c'est plus figé, quoi. C'est plus figé.
T'as un avantage avec un livre, c'est que si tu l'as sur une étagère 3 ans plus tard, il y est encore.
Quoi. Mais le CD, c'est pareil.
Oui, mais tu trouves un livre dans un magasin, une bibliothèque, 3 ans plus tard.
Sauf si t'as des cafards.
C'est un peu ça aussi. Tu vois quelque chose sur Internet, tu peux le télécharger, le mettre chez toi, tu peux le garder aussi. Le truc, c'est que t'as vu un livre quelque part chez un bouquiniste, tu reviens 2 ans après, il est plus non plus, quoi.
Il peut ne plus être édité.
Ouais. Oui, mais c'est un bouquiniste. Hein.
Oui, tout à fait. Non, mais même une bibliothèque,
il faut l'acheter. On peut pas comparer les deux supports.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils ont pas la. Mais je pense que le livre, effectivement, a une diversité qui est relativement comparable, en fait. Mais par contre, la dimension qu'a pas le livre, c'est le fait d'offrir la possibilité de publier à n'importe qui, en fait.
Parce que c'est vrai.
Parce que pour des groupes hyper minoritaires qui n'ont aucun budget, etc., c'est génial, en fait.
C'est sûr que sans Internet,
on serait un peu...
C'est pas si évident que ça, parce qu'il faut être équipé en informatique.
Il faut faire partie des privilégiés qu'on informe. Oui.
C'est pas gratuit.
Non.
Un livre, finalement, ça coûte moins cher.
Je pense que ça coûte moins cher.
Il faut avoir le moyen d'investir au départ dans de l'informatique pour avoir des choses pas chères du tout, mais il faut avoir.
Ouais, mais tu vas avoir un éditeur, tu veux sortir un livre, t'as une mise de base. Hein.
Pour éditer, le minimum c'est une brique.
Ouais, mais on pourrait très bien aller diffuser des photocopies de Quoique à l'entrée du métro.
Oui, mais ça c'est un bon exemple, ça.
Tu veux les photocopies pour demain, d'accord. puis je t'attendrai au métro, on va bien rire. Bon.
Une petite conclusion. Pour conclure.
Oui.
La cherche.
Oui, alors voilà, oui, je vais conclure. Oui, ben j'ai constaté justement que un des rédacteurs de ce journal, en fait, était un de mes collègues, voire même un bon pote, en fait, un mec avec qui j'échange des courriers en ce moment, et en fait, mais je lui ai pas dit que je faisais une émission là-dessus. Il aura la surprise après.
Tu lui as dit que tu faisais des émissions de radio?
Non, je lui ai même pas dit, en fait. Donc,
pourquoi t'as honte?
Je parle d'informatique avec lui, je parle pas de radio, quoi. C'est spécial, quoi.
Oui, non, je comprends.
Voilà, tu vois, c'est tout, quoi. Et en fait, ouais, je me dis, tu vois, le gars, il a fait un truc il y a 8 ans, 9 ans, et puis, paf, hop, je retombe dessus, et puis, hop, je le reconnais, machin, etc. Donc, t'es hyper traçable sur le net. Tu regardes un truc comme Google, en fait, tu cherches Christian Mauduit ou Tronvert ou machin, tu vas trouver un tas de choses.
Ouais, Numa, il a de trouver des trucs sur moi, là. Je suis sur Internet, sur un site, tu fais recherche Google moi-même. Et, voilà.
Moi, j'ai cherché moi-même sur Internet et tu peux tomber sur toi.
Et donc, tu trouves un tas de choses. Et alors, je me dis que c'est quand même impressionnant parce que toi, tu fais sur le net, comme ça, on peut te retrouver après, on peut poursuivre et tout. Sachant que déjà, ce que je disais les autres fois, hein, c'était le mec, il a le poignet bousillé avec à force de servir de sa souris pourrie, il est tombé malade, il a des problèmes de bite parce qu'il mangeait des pizzas froides brûlées, il a fait des séjours en prison parce qu'à cause de ses positions sur les logiciels libres, il est dans la merde, il est célibataire, détraqué sexuel à force de regarder des trucs porno sur le web, et puis voilà, tout ce qu'il a pu raconter comme conneries, il est fiché.
C'est fou. Mais pour combien de temps?
Ben, on ne sait pas.
Jusqu'à ce que ça soit effacé.
Est-ce que ça nous donnerait quand même que ce soit que ça offre une traçabilité aussi importante ça que peut, certains manuscrits que
ça peut ça peut rester sur des siècle. Ça peut rester sur des disques sur de serveurs
ouais,
pendant
dans quelques siècles ouais.
Ouais, ça m'étonnerait trop plein
ça m'étonnerait.
On sait pas.
Je voudrais rajouter un point, c'est que tu as oublié la cinquième le cinquième ennui de l'informaticien, tu as donné les points 1 à 4 et le sixième, le cinquième étant, il n'est pas invincible contre les cubes rouges.
Oui, mais ça, on peut... Oui, bon, c'est...
Il n'y a pas que les informaticiens.
Mais non. Ouais.
Donc, c'est un enchaînement parfait, Valérie. Merci, Darty. Hein, bravo. Puisque maintenant, Valérie va nous parler du nouveau détective qu'elle a sous les yeux, et vous loupez, hein.
Alors donc c'est un magazine d'enquête et ça coûte 1,40€ et c'est cher. J'ai failli en acheter un autre parce qu'il y avait un autre magazine du même genre mais il coûtait 2€. Donc je me suis dit que ça doit être le même niveau. Donc les sujets en couverture cette semaine sont une mère crucifiée. Déjà j'étais intéressée, je me suis dit une mère crucifiée ça doit être assez intéressant. Bon bah en fait je vous rassure, elle est vivante, elle est absolument pas morte ni quoi que ce soit. De toute façon il lui a rien arrivé. Enfin si, il lui est arrivé quelque chose, elle a perdu 3 de ses enfants. Parce qu'elle avait 4 enfants, et puis il y en avait un qu'elle a toujours traité de crétin, de connard, etc. Et qui, ben, un jour, le gamin, il a un peu pété les plombs, enfin, il avait 19 ans, et il a tué ses 3 frères et sœurs.
À cause de sa mère.
Voilà, bah, sa mère, finalement, a demandé... Ah oui, alors c'est un drame familial, c'est affreux, parce qu'elle
a... Ah oui, mais vas-y, tu vas jusqu'au bout, mais
pourquoi il a pas tué sa mère, plutôt, en fait?
Et ben, parce qu'il voulait se faire aimer de sa mère, donc il a tué ses frères et sœurs qui étaient aimés de sa mère, pour être le seul. Et en fait, ça a plus ou moins marché, parce que sa mère s'est rendue compte qu'elle avait eu tort de toujours le traiter de crétin et tout, et elle a dit, bah, c'est le seul fils qui me reste, je rêve d'être grand-mère, etc. Donc, ne m'enlevez pas mon fils. Après, elle va porter plainte, forcément, parce qu'il a tué ses 3 enfants.
Tu te rends compte des idées subversives que tu diffuses sur cette radio?
Et en fait, les jurés étaient pas d'accord avec ça. Donc, le mec a été condamné, rétention criminelle à perpétuité. Donc, voilà.
Ouais,
donc,
il apportera des oranges avec amour.
Donc, voilà, je sais pas
quand est-ce que... Un peu de cyanure aussi.
Et quel rapport avec elle est pas crucifiée du tout, alors?
Ben non, absolument pas. Mais c'est le grand titre.
Ah, si, c'est juste une image, c'est une expression.
Non, mais voilà. Alors,
c'est comme Michel Drucker, régulièrement.
Oui, parce que t'es vachement déçu, si
c'est comme l'expression, ça me troue le cul. C'est une expression. Parce que j'ai déjà trouvé.
Ah, bon! Ça apportait un certain intérêt, quand même. Merde.
Mais les sous-titres sont à peu près du même niveau. Disparu de Mourmelon. Vous vous souvenez des disparus de Mourmelon?
Oui, on a arrêté les recherches.
Dans le passé de l'ex-adjudant Chanal, ses mensonges, ses secrets, ses crimes. Donc j'ai lu l'article très intéressant, où le journaliste dit qu'après avoir traqué ce cher adjudant Chanal pendant des semaines, il a réussi à trouver sa voiture. Donc il a une voiture jaune sans permis, immatriculée dans son département en fait. Hein. Et comme tous les jours il va à la gendarmerie, en restant près de la gendarmerie, tu finis forcément par voir passer sa voiture. Et l'adjudant Chanal l'a semé. Donc il y a une photo de la voiture.
En mini-mobile les...
Oui.
Et il l'a semé en mini-mobile?
Oui, il l'a semé en mini-mobile.
Mais comment, il était à pied?
Mais l'autre, le journaliste s'est pas laissé faire comme
arrêtez,
ça.
Arrêtez.
Il a retrouvé l'adjudant Chanal.
Il est passé dans un endroit où la mini-mobile passait et pas la grosse voiture.
Non, mais il a tourné en fait. Voilà. Et l'autre a continué tout droit parce qu'il s'y attendait pas.
Ah, parce qu'il y a tous les détails et tout.
Ah oui, détective.
Bah, faut dire que tout ce qu'il a raconté, c'est ça.
Il y a la photo de la mini là.
Ouais,
c'est un journaliste de ce torchon là qui a fait l'enquête.
Ah oui, mais attends, c'est grandiose, c'est plus
chiant qu'à la police.
Attention à ce que vous dites, on va prendre un procès.
Mais attendez, parce qu'il a retrouvé l'ex-adjudant Chanal après. Il l'a retrouvé. Ils sont croisés dans un parking et là, l'ex-adjudant Chanal a fait semblant de regarder droit devant lui et de pas avoir vu le journaliste et il avait des yeux de Terminator. Et donc voilà.
C'est-à-dire?
Je sais pas. Voilà,
mais il ressemblait
gros,
à Terminator, quoi. Il avait pas l'air
l'article
sympa, quoi.
L'article intitulé...
Ne rentre pas dans une petite voiture sans permis.
Terminator qui est l'année morphing.
Voilà donc l'article intitulé « Enquête dans le passé de l'ex-adjudant Chanal, ses mensonges, ses secrets, ses crimes ». Je vous ai raconté vraiment tout ce qu'il y avait dans
l'article.
Donc c'est tous les mensonges, les secrets et les crimes.
C'est
passionnant.
Chanal jaune.
C'est passionnant tout ça.
En gros, il y a un mec qui s'est posé devant la gendarmerie, qui l'a regardé pointer toutes les semaines et qui l'a suivi et qui l'a perdu 3 fois de suite, quoi.
Voilà, mais il avait une voiture jaune métallisée par contre, l'ex-adjudant Chanal, ça c'est important.
Bah, sans permis, j'avais
pas de permis. Et qu'est-ce que c'est que vous, un cabinet de détective privé, qu'on rigole?
Et bah, si on veut, il y a une petite annonce là pour proposer une école de détective. faire partie d'une école de détective. Je sais plus où est l'annonce. Devenez détective, surveillance, filature, contrôle, enquête, garde du corps, protection rapprochée, agent de sécurité.
Ouais, de toute façon, on peut parce que
agent de sécurité chez Carrefour, quoi, en fait.
Ça coûte combien ces conneries là ?
Tu peux demander une brochure gratuite pour l'instant. Et sinon, il faut téléphoner au 06 80 35 11 47.
De toute façon, détective, c'est pas reconnu.
On commence à faire de la pub gratuite, là, c'est pareil.
Tu mets un truc si tu veux.
Alors, ensuite, deux autres articles en couverture. Après, je vous parlerai d'autres choses en plus, hein, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes.
Enfin, on n'a pas la journée. Hein.
Oui, mais
si, c'est vachement dur.
Surtout pour ça. Hein.
Oui, mais c'est important que vous sachiez.
Allez, préparez-vous, vous n'avez pas entendu ma chronique.
Vas-y.
Le mystère du Grand Bornand. Ceux qui traquaient la famille Flactif. Alors là, c'est des gens qui ont disparu au Grand Bornand dans un chalet.
Là.
Oui, voilà.
Ouais. Ouais, avec le
alors,
sang
j'ai
et
pas
tout.
Eu le début.
Donc, ils en savent
le
plus.
Le titre en couverture, ceux qui traquaient la famille Flactif. Donc, on lit l'article. Oui, alors en fait, on sait pas trop ce que c'est devenu, etc. Mais par contre, le 4x4 de la famille Flactif a traîné pendant une semaine à 20 km de là où c'était, etc. Enfin bon, très bien. Et à la fin, l'article se termine par... Mais alors, si Monsieur Flactif ne s'est pas enfui avec sa famille, puisqu'il n'a pas tiré d'argent sur ses comptes en banque depuis que ça est arrivé cette histoire, s'il n'a pas tué sa famille et il s'est pas enfui tout seul, s'il ne s'est pas suicidé, pourquoi tout ça? Bah parce qu'on les a pas retrouvés, quoi. En gros, c'est tout. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Et la conclusion de l'article, c'est forcément la mafia, parce qu'on voit pas qui d'autre pourrait faire ça. Mais c'est le journaliste quoi qui a décidé que c'était.
C'est des anciens flics les journalistes là ou
c'est une enquête de Christophe.
C'est des nouveaux Quentin. Imbéciles.
Je pense que la deuxième solution est la bonne.
Allez, hop, trois procès.
On est en forme.
Alors ouais. Après il y a un article que j'ai beaucoup aimé parce que c'est historique, c'est sur le 8 mai, sur aujourd'hui. Un document pour l'histoire, les dernières lettres des fusillés avant de mourir. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se dit c'est historique.
Les dernières paroles.
Les gens vont raconter, c'était des résistants qui se sont fait fusiller par les nazis. Ils vont dire, voilà, la France, c'est ceci, cela pour moi, etc. Par exemple, on voit un petit peu dans l'édito, le mec qui fait l'éditorial dit, c'est vraiment très intéressant, ces articles. On lit des choses comme, ce sont les Français qui me livrent et je crie, vive la France.
Arrête,
les Allemands qui
m'exécutent
et je crie, vive le peuple allemand et l'Allemagne de demain. Un autre qui dit sur l'Union européenne, peut-être que cette guerre verra enfin l'union des peuples européens se réaliser, etc. Bon, ça, c'est dans l'édito. Par contre, si on lit l'article lui-même... Non, c'est pas qu'il n'y a rien de plus, c'est qu'il y a des trucs en moins. C'est que on a des phrases du genre... Je vous en fais une comme ça. Hein. Oui, je meurs, mais je meurs pour une cause qui me paraît juste. Trois petits points, la lettre a été coupée. Je t'embrasse, ma chère Henriette.
Oui, donc en fait, on ne sait pas d'où elle est sortie.
C'est
quoi.
Génial.
Ça pourrait être sur n'importe quel sujet.
Oui, puis on se dit que dans les trois petits points, c'est justement là que la personne dit sûrement la cause était juste parce que ceci, cela, je pense que la France sera plus intéressante après, etc. Oui, non, ça, il coupe. Ce qui est intéressant, c'est ma petite chérie, ma poulette, je t'aime, etc.
Et je meurs. Très important, le je meurs.
Oui, alors ça, par contre, ils le disent tous, hein. Ils meurent, ça, on le sait. Hein.
Ben, ils avaient raison.
Par contre, t'as droit à tous les détails, genre, il y en a un qui était papa, machin, tout. Enfin,
ah oui, bah, ça, cousine, ouais. Ça y est. Alors, la spécialité de détective, c'est les mecs qui meurent, et justement, leur copine était enceinte d'eux, et ils ne connaîtront jamais leur enfant.
Ah oui, alors,
ça, c'est triste.
Ça marche toujours.
Il n'y a jamais l'inverse.
Commerce du petit drame.
Rarement, à vrai dire. Et un truc que j'adore dans ce journal, c'est que c'est tire-larme au possible. Ouais. Alors, ça vous raconte les meurtres. Je vous fais un meurtre typique raconté par détective.
Ah oui.
C'est André et Bernard. Bernard avait décidé de se réconcilier avec André. Il trouvait la dispute tellement stupide. Il est donc venu voir André et il lui a dit à quel point il trouvait ça stupide. Dans sa tête, il pensait qu'André allait accepter cette réconciliation et qu'ils allaient enfin redevenir les amis qu'ils étaient. Mais André ne l'entendait pas de cette oreille. André a d'un geste décisif pris un couteau de cuisine et l'a plongé dans le cœur de son ami de 30 ans. Et donc, en fait, donc finalement, le Bernard en question est mort. Donc, tout ce qu'il avait dans sa tête sur ce qu'il pensait de la réconciliation et tout, il y a que le journaliste du nouveau détective hein, qui est au courant parce que personne
d'autre. Et ça se trouve, c'est les pros de la filature.
Les amours les amitiés de 30 ans, tout ça, ça vous rappelle rien en fait.
C'est peut-être une
métaphore et c'est pas André et puis Marcel ou je sais pas qui là. Ça se trouve, c'est deux autres.
Jacques et Edouard.
En plus, hein, c'est des journalistes qui font vraiment, ils font du bon boulot parce que c'est important. Ils protègent.
On parle d'eux à la radio.
Ils protègent l'anonymat des gens qui doivent être protégés. Par exemple, là, cet article-là parle d'un garçon qui s'appelle Sullivan, qui a été tué par sa sœur. Bon, par souci de pour préserver son anonymat, on a choisi de l'appeler Christelle, la sœur, hein.
Oui.
Parce qu'en fait, pour l'instant, il faut se souvenir que pour l'instant, elle est toujours présumée innocente. Donc ça se passe rue Buffon à Tourcoing. C'est là qu'habitait Sullivan avec sa mère Joël. Bon. Et donc la sœur s'appelle Christelle.
Hein. Bah, dis donc, on se demande bien qui c'est, hein.
Et la sœur a écrit en prison. Elle a écrit à sa mère. Bonjour maman, c'est Christelle. J'ai des images de la mort de Sullivan qui me reviennent. Et pour nous montrer que c'est vrai, il y a une photocopie de la même lettre. Bonjour maman, c'est Mélanie. Je suis bien arrivée hier soir. J'ai des images de la mort de Sullivan qui me reviennent.
Bravo. Alors là, bravo.
Voilà donc un très grand journal. Les gens adorent lire ça.
C'est du A3. Hein.
Oui, c'est à combien?
Je sais pas, je préfère pas savoir. Regarder dans l'ours.
Il y a sans doute au début.
Oui, c'est forcément écrit dans l'ours, mais je sais pas, je le trouve pas, hein, tant pis. Et on voit que les gens aiment ces trucs-là parce que, par exemple, il y a une dame, un jour, elle a tué son chien sous les yeux de sa fille. Vous imaginez le drame? C'était affreux. Et donc, il y a les lectrices écrivent après ça. Elles lisent ça, forcément. Et elles disent quoi? Deux lectrices. Il y en a une qui dit: j'espère que la justice fera son travail et que la petite fille pourra vivre avec sa tante. Deuxième lectrice: avec une petite fille de 12 ans, cette femme n'avait-elle rien d'autre à faire que de boire? Pauvre gamine, elle avait un bel exemple sous les yeux. Il faudrait la laisser chez sa tante. Donc vous avez aussi les articles où vous pouvez qui ont déjà été jugés et vous pouvez voter pour dire si la personne mérite 10 ans de réclusion, 20 ans de réclusion ou la perpétuité.
Ah ouais,
de toute façon, ça a déjà été.
Ah oui, mais ça marche bien.
Ça a déjà été fait, donc c'est juste pour voir si vous êtes assez bon pour être juré. Si vous n'êtes pas assez bon pour être juré, vous ferez détective.
Et c'est comme une famille en or. Après, t'as les trucs, on dit « Ah non, vous auriez eu faux. En fait, oui, il a été condamné. »
Oui, on te le dit la semaine suivante.
Oh là là, c'est horrible.
Et si ça vous fait chier, tous ces trucs-là, ça vaut quand même le coup parce que c'est plein d'annonces de cul. Hein, si vous voulez.
Ah bah, fallait commencer par là.
Et ils vendent même des jumelles. Et comme on peut voir sur la photo, c'est des jumelles faites pour regarder les femmes à poil.
Oh bah c'est génial.
Ouais, on peut voir les femmes à poil sur la plage.
Au départ, tu sais qu'elles sont à poil. Tu veux vérifier si elles sont à poil.
Autrefois, il faisait des pubs aussi pour les élongateurs de sexe, mais plus maintenant, j'ai été assez déçu de ce côté-là. Je me suis dit que 1€ carotte pour même pas avoir de pub pour élongateurs
de sexe. Maintenant que les mecs, ils ont des bites de 40 cm, faut bien qu'ils les utilisent sur quelque chose. Hein.
Ben, d'accord, oui, bah, sur cette conclusion, nous allons applaudir Valérie. Merci. C'était passionnant.
Bah, c'est l'effet divers. Hein.
Bah oui, non, mais tout à fait. Donc maintenant, nous allons passer à Flo qui va nous parler d'un film.
D'un fait divers presque aussi, ouais.
Donc vas-y, à toi, top, c'est parti.
Ouais, j'ai honte, j'ai l'impression de piquer la chronique de Valérie. En fait, je vais vous parler de Autofocus. C'est un film.
Voleuse.
Ouais, parfaitement. C'est un film qu'on allait voir avec Numa parce qu'on nous a dit il faut faire un sujet. J'ai un média. Fait chier. On l'a regardé. Et puis en fait, il y avait des trucs. Un documentaire qui s'appelait Le Tube, qui aurait pu être intéressant. On l'a raté. Il y avait aussi.
Chomsky contre les médias.
Et les illusions, ouais, les illusions des médias. Ouais, mais on n'a pas pu aller le voir. Alors on s'est rabattu sur ce qu'on a trouvé. En fait, on est allé voir Autofocus, qui est pas mal d'ailleurs. Nous, ça nous a plu. Je tiens à souligner d'ailleurs que ça nous a plu parce que c'est un type à qui ça a pas vraiment, vraiment pas plu et vous allez savoir pourquoi plus tard. Alors, c'est un film qui a été fait aux USA l'année dernière par Paul Schrader. D'après le livre de Gray Smith, The Murder of Bob Crane, en français, meurtre de Bob Crane. Et Bob Crane, pour ceux qui auraient oublié,
ceux qui auraient oublié, pour ceux qui ne savent pas.
Pour ceux qui ne savent pas tout court, Bob Crane, c'est Stalag 13, c'est Hogan.
C'est le colonel Hogan.
C'est le colonel Hogan.
Le colonel Hogan.
Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Stalag 13.
Donc c'était l'acteur dans une série télé américaine des années 70.
Voilà.
C'était dans un camp allemand, il était prisonnier.
Ouais, parce que ça s'arrête en 71 en fait.
Bah, il est mort.
Mais ouais, nous on savait pas. Parce que en voyant ce film-là, je vois Bob Crane, enfin je vois le mec qui fait Hogan et je me dis tiens, c'est vrai, c'est bizarre, ce mec à la télé, j'ai jamais vu au cinéma, machin, etc. Et en fait, il est mort. Et le film retrace sa vie depuis les années 60 en fait, jusqu'en 78, date à laquelle il est assassiné. Alors en fait, Bob Crane au tout départ, c'est un paisible animateur radio comme nous. Voilà,
Didier, tu vas nous raconter notre vie en fait. Là.
Ouais, voilà, je vais vous raconter notre vie, comment nous allons périr lamentablement et tristement. Enfin, lamentablement, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais bon. Hein. Alors, d'abord, il est animateur DJ sur une radio, et puis un jour, son coach vient le chercher et lui dit, bah, écoute, je t'ai trouvé une place, là, tac, Hogan's Heroes, c'est une série faite par Bill Crosby, etc., etc. Et pendant... nous, on s'en rend pas compte parce que 71, moi, j'étais pas encore née quand ils ont arrêté la série, mais enfin, on l'a tous découverte et ça a été le truc.
C'est génial comme série, quoi.
Et ouais, c'est génial
c'est
comme série.
Bien.
Et donc, pour lui, c'est le début d'Hollywood, le grand Hollywood, et c'est aussi le début d'une rencontre, enfin, c'est une rencontre avec un certain John Carpenter. Rien à voir avec...
Le même?
Non, il y en a plein, c'est pas le même. C'est pas
le même. Les François Dupont, Maurice Durand,
les gens
voilà, en quelque sorte, voilà. Et donc, ce John Carpenter, avec Bob...
On connaît un.
Donc Bob Crane avec John Carpenter va s'adonner un peu plus profondément à son hobby favori, qui déjà, bien que la série Hogan's Heroes ou Star Trek ne le laisse pas supposer, était la photographie des seins nus.
Parce que je pensais que tel que tu commençais ton nouvel
Bob Crane avait une obsession pour les seins et une libido assez poussée. Et en fait là, John Carpenter lui apporte son dernier bijou, puisque John Carpenter est un représentant en vidéo. Et donc, il lui refile les premiers prototypes vidéo.
Mais avec une libido super développée comme ça, il a dû être vachement malheureux ou ch'talag en fait.
Ah, l'horreur. Non, mais justement, c'est pas vrai. Parce que dans le film, il découvre que finalement, la secrétaire du ch'talag, pas mal.
C'est vrai, ouais.
Mais d'ailleurs,
il se marie.
Quoi ?
Ch'talag 13.
Ah non, ch'talag 13, c'était vrai. Oui, il se marie en vrai avec la secrétaire du Star Trek. Wow. Ouais, hein. Mais enfin bon, quoi, si tu veux. Donc, ce John Carpenter lui amène la vidéo et John Carpenter passe de la photo érotique et plus que érotique à la vidéo érotique. Et alors, il avait une manière très à lui de résumer la chose. Il disait « I don't smoke, I don't drink, 2 out of 3 and bad ».
C'est le contraire de moi.
Ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, « je ne fume pas, je ne bois pas et 2 sur 3, c'est pas mal ». Bon, alors, c'était pas l'avis de tout Hollywood et de l'opinion publique. Parce
donc, 2 under 3, ça veut dire 2 sur 3.
2 sur 3, ouais. Ah, non, 2 out of 3. 2 out of 3.
Ah, ouais. C'est 2 parmi 3, en fait.
Ouais,
c'est pas
2 sur 3. Non, 2 parmi 3.
Oui, mais c'est la traduction en français.
Ouais, oui, non, mais
c'est vrai. Littéralement, ça veut rien dire.
Bah, oui, c'est une ça. Critique de cinéma, c'est pas un cours d'anglais.
Sorry.
Ça veut dire désolé.
Et donc voilà, donc sa cote de popularité à Hollywood se casse la gueule. Il y a Disney qui lui offre une nouvelle chance. Tout ça, on le voit dans le film, hein, en lui proposant de tourner dans Big Daddy, qui
il
vous dit rien.
Des grandes oreilles rondes et puis hop, voilà. Une chance chez Disney.
Big Daddy, ça vous dit rien si, du tout.
Ça dit rien à personne.
En fait, ça a fait un flop.
Ouais, mais il y avait des affiches partout à un moment.
Ah ouais, mais ça a fait un flop en fait. Et puis, un peu avant d'être assassiné, en fait, il tourne dans quelques cafés-théâtres et de soins, quoi. Et c'est la fin de Bob Crane. Et comme ça, vous savez maintenant pourquoi on n'a jamais revu Bob Crane sur les grands écrans. Ce qui pouvait très certainement en traumatiser certains.
Mais comment il a été assassiné?
Et voilà, parce que nous, quand on a vu ce film avec Numa, on s'est dit merde.
C'est le colonel Fink, c'est sûr.
Il s'est passé ça.
Moi, je crois que c'est dans la cuisine avec le chandelier. Hein.
Ouais, non, mais puis. On dit
visiblement,
toujours,
c'est à peu près ça. Hein.
C'est pas dans la chambre avec le vibromasseur.
Non. On dit toujours qu'il faut jamais trop se fier à ce qu'on voit sur l'écran, que le mec que tu vois de l'écran en train de faire tel machin, etc., qui est un amour avec sa femme, en fait, peut-être la pire des brutes. On l'a bien vu avec Humphrey Bogart, hein, qui avait rien à voir avec ses gonzesses, entre l'écran et la vie privée.
Et Leonardo DiCaprio aussi.
Ouais, voilà, hein. Plein d'exemples.
Ah bon, des potins.
Et donc là, avec Numa, on était très, très, très bouleversés, perturbés. Donc, j'avais fait une petite recherche sur Internet. On a cherché un peu, voir si c'était la vérité, regarder s'il y avait une petite biographie, etc. Enfin bon, on aurait pu penser que ça vient d'un livre. Et donc, sur le net, effectivement, dans IMDb, on a trouvé la biographie poubelle, comme d'habitude, qui a tendance à accréditer le livre, mais de manière assez soft. Donc, on a cherché un peu plus loin et j'ai trouvé carrément, en regardant en bas de la page IMDb, il y avait des messages.
Internet Movie Database, hein, pour ceux qui connaissent.
Ouais, il y avait des petits machins signés d'un certain Robert Scott Crane. Et je me suis dit, tiens, un mec qui signe Robert Scott Crane, ça a des chances d'être un de ses fils parce que dans le film, on voit qu'il a 2 fils. Il se marie 2 fois et il a 2 fils, dont un qui s'appelait Scotty.
Et il divorce 2 fois.
Il divorce 2 fois, ouais.
Divorce 2 fois.
Et ce qui est intéressant, ce qui nous a beaucoup amusé dans Internet, c'est qu'à un moment, il y a quand même un mec, il y a quand même un Américain qui a trouvé le culot d'expliquer à ce fameux Scotty comment on parlait anglais, etc., et la vie de son père et la vie de son frère, ce qui est pas mal. Et donc,
j'ai pas compris de quoi parlait le film, mais parle de la vie
de Robert Crane, de Bob Crane, de Hogan,
de l'acteur.
Mais alors on voit, il parle bien de sa mort aussi. Sinon mais c'est voilà. Pas très intéressant.
Mais nous, on se demandait un peu à non, quel point que si c'était vrai ou autre, parce que c'est pas tendre comme film. Enfin, c'est très sexe. Hein.
Donc vous voyez
dans le film, dans le film, il est assassiné avec un pied de micro et. Tout laisse à supposer qu'il est assassiné par John Carpenter.
Voilà, tout laisse à supposer ça. Menuma, en cherchant sur Internet, a trouvé que Bob Crane serait mort étranglé avec des fils électriques. Alors, être détective, on fait la différence entre un crâne explosé et un coup un peu trop
serré.
Moi,
je suis pas médecin légiste, mais je pense que je ferai la différence.
Voilà. C'est avec Internet.
Donc alors, pour vous résumer un peu la biographie de nos amis Crane, alors en fait, le Bob Crane qui nous intéresse s'appelle Robert Edward Crane, d'où le surnom Bob Crane. Son premier fils s'appelle Robert David Crane, qui pourrait
d'où
aussi s'appeler...
le surnom Scotty.
Bob Crane. Non, ça c'est Bobby, celui-là. Le premier c'est Bobby. Le deuxième s'appelle Robert Scott Crane, d'où le surnom Scotty.
Ils s'appellent tous Robert, en fait.
Ils s'appellent tous Robert. En fait, on a Bob Crane...
Non. Tu dis un junior.
Non, il y a toute une polémique sur Junior parce que justement Scotty souffre beaucoup qu'on appelle son grand frère, enfin son demi-frère Bobby Junior, enfin Robert Junior, Bob Junior quoi. Ça il en souffre beaucoup. Il y a pas de junior donc.
Oh, il y a pas de quoi souffrir entre Bobby et Scotty. Hein.
Voilà, bon,
c'est pas grave. Hein. Le chien, ça fait comment ?
Foutu, pas foutu.
Donc voilà, donc c'est une histoire de Crane en fait.
Les chiens eux s'appellent Théophraste et Anastase. Hein.
C'est l'histoire donc de Bob, Scott et Bobby. Alors en fait, Bobby il a collaboré au scénario du film, donc on peut supposer que Bobby a raconté des choses qui étaient relativement pertinentes quant à la vie de son père. Mais quand on lit ce que Scotty lui en pense, d'abord on voit qu'il est très vénère. Et bah, c'est peut-être parce qu'il est pas dans le film, mais on lui avait quand même demandé justement de donner son avis sur le film poliment. Voilà, est-ce que vous pourriez regarder mon film, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que bon, j'ai bien traité du sujet de votre père, etc., etc. Et lui, en fait, non, pas vraiment. Il trouve que il a failli très très fâché contre Monsieur Schrader, à qui il a laissé une petite note personnelle qui est pas très aimable du tout, en lui disant que son film n'est qu'une espèce de torchon calomnieux. Et que c'était pas la peine de se faire chier à faire un truc aussi paresseux et minable. Alors, il y a
c'est
quelques.
C'est lui qui a pas aimé
c'est
le film.
Gentil,
c'est lui qui a pas aimé le film. Attends, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelques points qu'il voudrait éclaircir sur, à propos de son père. Alors bon, outre le fait que le film est un truc minable, bourré d'insinuations et de rumeurs, c'est nul. Enfin bref. Alors, il tient à signaler quand même que toutes les femmes que son père a filmées en train de baiser et tout étaient consentantes.
Oui.
Non, nous sommes contents de le savoir.
C'est un minimum d'un certain point de vue, mais
ce qui veut dire qu'il y avait de l'odeur, en fait.
Ouais. Qui les a pas filmés à leur insu, en fait.
Voilà.
De leur plein gré.
Que Bob Crane ne s'est jamais laissé influencer par John Carpenter, ce qui laisse à penser que Bob Crane était vraiment l'obsédé sexuel qu'on te laisse apparaître dans le film. Que Bob Crane ne s'est jamais fait gonfler le sgeg. Il était naturellement bien monté, son père.
Ah oui,
il tient à le souligner.
À ma connaissance, il lisait pas.
C'est important. Positif,
d'ailleurs. Très très important. Et que Patricia, la mère de Scotty, enfin donc le mec qui est très énervé, n'est pas telle qu'elle est décrite dans le film. Et d'ailleurs, Scotty l'explique en disant que son demi-frère, entre guillemets, Bobby, a toujours eu un problème avec sa belle-mère.
Eh oui.
Hein, n'est-ce pas ?
C'est des choses qui arrivent malheureusement.
En fait, à l'arrivée, il se trouve que Scotty ne remet absolument pas en cause l'appétit sexuel de son père. Hein. Alors,
on voit des femmes à poil, des seins. Et
ah ça, on en voit. Ouais, on en voit. Il est censuré pour les jeunes personnes aux États-Unis. Hein, tellement il y a de femmes à poil, il y a utilisation de drogue et des mots grossiers aussi.
Oui, pourtant, c'est pas très voyeuriste.
Hein. C'est pas très voyeuriste du tout. Hein. On a l'impression, ça fait un peu documentaire. Et en fait, j'aimerais dire à propos de Scotty quand même que ce type qui se plaint beaucoup de ce qu'on calomnie l'image de son père s'occupe lui-même d'un site internet dédié à son père qui s'appelle bobcrane.com sur lequel vous trouverez les films X tournés par Bob Crane avec les nanas consentantes. Si vous voulez bien payer $1
et
quelques.
Payer, alors merde.
Ouais, alors on n'a pas regardé pour vous, on est désolé.
Non, mais c'est pas les filles que tu payes.
Non, les films. On a vu quelques photos X. Bon, ça n'a rien de redoutable. Hein. On en a vu quelques-unes, mais si tu veux voir pire, c'est pareil, il faut payer. Alors on n'a pas vu pire. Tu peux acheter des t-shirts, etc., etc.
Les t-shirts, c'est des
c'est, non, c'est un
t-shirt.
Ouais, c'est
il y a
c'est,
un t-shirt qui est assez, assez rigolo. Ouais, si vous jetez un œil dessus, on pourrait tous le porter. Mais c'est pas très portable dans la rue quand même en France. Hein.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, c'est Bob Crane en train de prendre en levrette.
En missionnaire, plus exactement.
Non. En levrette, donc une gonzesse, et puis
il prend une photo en même temps.
Et la gonzesse prend une photo, lui.
Non, la gonzesse, elle a les yeux bandés. Il y a un bandeau noir sur les yeux bandés.
Je veux quand même prendre une photo.
Il prend tous les deux en photo le photographe qui les prend en photo.
Passer cet aspect un peu voyeuriste. Le film est pas mal, hein, c'est réalisé de manière très intelligente. On se croirait vraiment dans un film des années 70.
Au début. Années 65 au début, ouais. Et ensuite on voit bien qu'on arrive au milieu des années 70.
La qualité de l'image suit l'évolution, dans le temps. Et la manière de filmer se dégrade aussi avec l'état de Bob Crane, dirons-nous.
Et il y a eu combien de téléspectateurs en France pour ce film?
On l'a trouvé dans une...
Il y a les affiches partout.
Oui, mais il a vraiment pas marché. Scotty Crane est très heureux d'annoncer que le film n'a pas été nominé aux Oscars, n'a pas été nominé à.
Ouais, non, mais bon, à part de
lui, Scotty, il est content.
Et il est disponible en DVD maintenant?
Non, il est encore sur les écrans.
Il est encore sur les écrans.
Il y a encore les affiches.
On peut
à Paris ou?
On doit pouvoir le voir partout. Hein.
Ouais.
Non, ça va faire un gros flop, mais à part ça, on peut le voir partout.
Ouais, on peut le voir à Châteauroux, je crois.
Ouais.
Ah ouais, c'est sympa.
Très bien, justement, je voulais aller à Châteauroux.
Donc, de ce film, nous retiendrons une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il faut se méfier des médias, parce que quand même, on a deux frères qui ont une vision complètement différente de la vie de leur père. C'est des choses qui arrivent assez souvent, en fait. Puis, il y a une chose qu'on n'a pas élucidée, c'est comment est mort Bob Crane. Mais une chose est sûre, c'est qu'il baisait beaucoup et que c'était certainement un swinger, enfin, un échangiste.
Ben on demandera au journal de Valérie de mener l'enquête.
Je l'amènerai moi-même, ça sera plus sérieux.
D'accord, mais écoute.
Il devait avoir une femme.
Écoute, Flo.
Si, il a eu deux femmes, ouais.
Ouais, parce que je me disais, pour être échangé. Enfin, tu vois.
Faut échanger. Pour
ça lui posait pas problème. Justement, la première est partie à cause de ça, la deuxième lui a dit.
Il y en a qui essayent d'échanger.
C'est
pas grave.
Donc, Flo, merci beaucoup. C'était passionnant, un petit peu tu, comme ça fait pas de mal. Et maintenant, nous allons passer à Béatrice. Béatrice...
À la télé,
à toi.
Parce que si on parle des médias, forcément, on ne peut pas contourner le sujet de la télé, puisque bon, quand même, c'est le support d'information le plus consulté par les Français. On l'a encore vu dernièrement avec le conflit en Irak. Même si la presse écrite a aussi augmenté ses tirages pendant cet événement, les journaux télévisés ont fait
ses tirages.
Non, il est mort.
C'est son fils Scotty qui augmente les tirages certainement en ce moment.
Et la télé a fait aussi ses meilleurs scores d'audimat pendant le conflit en Irak pour les journaux de 20h. Donc moi je me suis demandé un petit peu pourquoi est-ce que la télé était aussi pour les informations pour les 20h était aussi regardée et pourquoi est-ce qu'elle avait devancé comme ça la presse écrite. Alors 3 points, je pense que c'est parce que c'est plus attrayant. Plus ludique grâce aux images qui fait qu'on a plus facilité plutôt que quand on rentre de chez soi à...
Peut-être que les gens savent plus lire.
Et ben voilà, quand on rentre d'une journée de boulot, c'est plus fatigant de se taper un quotidien à lire, c'est écrit tout petit pour certains, plutôt que de se poser et puis avaler les informations qui défilent. Il y a des images, c'est beau,
j'en ai vu qui lisaient le journal avec une loupe et je comprends que tu passes à la télé après quand même, c'est fastidieux la loupe.
Oui. Non, mais c'est plus facile de recevoir les informations sur ce support-là. Ensuite, c'est plus facile d'accès, donc il n'y a pas à lire, c'est à écouter. Et puis c'est plus rapide. Bon, maintenant plus rapide, il y a aussi Internet, mais c'est quand même plus rapide que la presse écrite, surtout si on fait des journaux ou des émissions en direct.
Je pense qu'il y a deux autres raisons, moi.
Vas-y.
Qui sont d'abord, si tu veux lire ta presse écrite, faut aller la chercher,
oui.
Alors que la télé, tu l'achètes.
C'est vrai.
Et la deuxième raison va un peu avec, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est plus économique. C'est un journal, ils se disent oui, mais faut le payer, alors que la télé,
oui,
c'est gratuit.
Et en plus,
c'est pas vrai, puisque la télé,
non,
mais
c'est vrai
la
que
paye
la presse écrite a vachement augmenté son prix. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte, mais c'est assez récent, il y a beaucoup de gens qui donnent ça comme excuse.
Surtout en France, c'est la presse écrite
la
plus chère d'Europe.
C'est hors de prix, finalement.
Mais on trouve quand même pas mal de quotidiens sur les lieux de travail des gens, où ils trouvent le...
Ouais.
Donc.
Et on les trouve
souvent
sur Internet.
Ils lisent, ouais, on les trouve aussi sur Internet. Dans les bars, on trouve aussi le journal, donc il y en a pas mal qui le lisent au bar.
Ah oui, mais toi, tu travailles au bar.
Ah ouais, mais ça, c'est très citadin. dans les campagnes.
Ben moi, quand j'étais dans ma campagne, j'allais lire le journal au bar. Hein.
Ouais, mais ça c'était au dans le Poitou et.
Non, voilà. dans les deux Sèvres.
Non, mais c'est différent. C'était une campagne particulièrement civilisée. Faut penser aux autres campagnes.
Non, mais c'est pas
toi
ça.
Toi, tu les as pas vus là-bas.
Tous ces moyens-là, on les a pas partout. Donc à partir de ces quelques avantages, là, j'ai essayé de trouver les dangers que ça représentait, surtout en matière de partialité, et de reprendre tout ce qui m'énervait dans ces trois points-là, de la façon de traiter l'info. Bon, d'abord, il y a des images. Donc le danger de l'image, on connaît, ne serait-ce que par la presse écrite. Par exemple, quand Voici prend une photo de Johnny qui fait la tronche, on peut se demander qu'est-ce qu'il a, il est malade, alors que si ça se trouve, il vient juste de se coincer un truc au fond de la bouche, ça le gêne, il est tout grimaçant. Là, on peut avoir n'importe quelle interprétation. Bah, c'est la même chose à la télé, mais encore plus fort, parce que du coup, on se dit qu'on n'a pas qu'une seule image, mais un défilement d'images. Du coup, on est un petit peu plus incrédule. On se dit qu'ils peuvent pas nous avoir là-dessus. Or, si, c'est exactement la même chose. Oui, d'ailleurs, vous allez me trouver des exemples. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Parce que j'ai écrit ce truc-là il y a longtemps.
Moi, j'en ai un exemple en parlant de l'image qui fausse la vérité.
Ouais.
C'était dans 94 ou 95. J'étais étudiant à Poitiers et il y a eu des inondations à Poitiers. Et donc, à Poitiers, il y avait la gare qui était inondée et deux, trois rues autour du Clain qui est la rivière qui passe à Poitiers. Donc, bon, ça, évidemment, c'était, il y avait beaucoup plus d'eau que d'habitude. Il y avait quelques rues qui étaient bouchées, mais la ville n'était pas arrêtée. Et à la télévision, 20h, ils ont montré des images de Poitiers.
Poitiers est inondé.
Voilà. Poitiers sous les eaux. Voilà. Et ils ont montré la gare avec des plans bien serrés et deux trois rues qui étaient inondées avec des plans bien serrés. Et effectivement, on avait l'impression que Poitiers était noyé sous les eaux, que l'arche de Noé allait pas tarder à arriver.
Ouais.
C'était la catastrophe absolue, alors que c'était pas à ce point-là.
Parce
que
moi, j'ai vu Poitiers noyé.
Là, c'est justement une façon de manipuler les images. Ça, c'est encore autre chose. Mais sur une seule image ou un seul petit reportage, il y a l'histoire de d'interprétation de ce qui est représentatif ou pas. Par exemple, ils vont nous montrer, quel que soit le plan, ils vont nous montrer, par exemple, après l'attentat du 11 septembre, ils nous ont montré des foules d'Arabes qui étaient soi-disant contents que les deux tours soient tombées. On ne sait pas d'où elles sortent, les images, ça c'est encore autre chose, et même, on peut se dire que on nous montre ces images-là et on nous dit les Arabes sont contents. Ça n'est pas représentatif. C'est juste une poignée d'Arabes qu'à la limite ils ont trouvé qui étaient contents.
Et en plus on ne sait pas pourquoi ils sont contents.
Et en plus on ne savait pas pourquoi
ils
étaient
contents. Ils ont gagné un match de foot et puis voilà.
Oui, ils ont été payés pour être contents.
Donc ça c'est les images pures et simples, leur interprétation. Par contre après c'est vrai qu'on peut les magouiller entre guillemets. Il y a effectivement la question du cadrage. Effectivement si on veut montrer que Poitiers est inondé, on va montrer deux rues, on se dit oui, Poitiers est sous les eaux. Or, si on faisait plan plus large, effectivement, on se rendrait compte que c'est pas la vérité.
C'est clair.
Il y a aussi le journaliste qui voit quelque chose et qui n'analyse pas ce qu'il voit, qui se dit que lui-même se dit qu'il est capable de penser.
Ça, c'est le contexte.
C'est le charnier de Timisoara. Je veux dire, on voit des morts, c'est forcément, il y a un charnier, c'est horrible.
Ouais, voilà. Ça, c'est le contexte. Et ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus parce que c'est justement la façon dont la télé fait de l'information. Ils mettent des images. Quelquefois, on n'en a pas forcément des images à montrer. Seulement, ils en mettent quand même, puisque c'est le support même.
Bah oui, donc, c'est comme un blanc à la radio, c'est bizarre.
Ils vont faire un petit reportage sur n'importe quoi et ils vont montrer des images. Ces images-là, quelquefois, ce sont des images d'archives. Ça, ils sont obligés de le noter. Mais quelquefois, ils vont juste filmer un décor qui correspond très lointainement au sujet. Et c'est là que c'est vachement dangereux, parce que là, on va fixer quand même les images, on se fait une idée de l'information qu'on nous donne par rapport aux images, même si à la limite, on sait très bien qu'elles sont très lointainement...
Mais parfois, t'as l'information, mais elle t'est pas dite, elle est écrite en tout petit, et donc tu vas voir, mettons, une photo de tel événement, enfin tu crois toi t'es oui. de bonne foi et oui. tu si tu regardes bien tout en oui. bas de l'écran tu vois qu'en tout petit cette photo bah elle a été prise 2-3 mois auparavant voilà. Là, ça, mais il faut que toi même que tu regardes à la loupe
et ça de toute façon ils ne nous le disent jamais dans quel contexte ont été prises les images alors que c'est vachement important si nous-mêmes on veut se faire une vraie idée de l'information qu'ils nous font passer.
Non, mais il y a un autre problème aussi. Tu parlais des images comme ça qu'on voyait. Et ce week-end sur France Inter, ils parlaient. Maintenant, ils ont une émission qui est assez intéressante où ils discutent.
Ça va les images sur France Inter. Non,
ils réfléchissent sur les problèmes de la radio. Et là, le problème, c'était la vitesse de l'information. Et ils expliquaient. Et il y a le même problème maintenant avec la télévision, avec les images en direct. C'est qu'avant, en fait, quand le type parlait d'écrivait une information sur France Inter, enfin bref, il venait, une dépêche tombait, ça passait par le fax. Il y avait un mec qui traversait les couloirs, qui faisait 200 mètres, qui lisait l'information, etc. Et le type avait le temps de réfléchir avant d'en parler. Maintenant, ça arrive, boum, sur le prompteur. Et là, c'est pareil. Elle a
bah, c'est eux qui le voient, c'est ce que je voulais dire après.
Ah, je suis désolée.
Parce que là, on a vu les dangers rapidement. Il y en a tellement, de toute façon, donc les dangers de l'image. Après, c'est vrai que la télé, c'est aussi le son. Et c'est vrai, donc, ceux qui disent. Et effectivement, ce que tu viens de dire, un des principaux trucs qui m'énerve, c'est que effectivement, ça va vite. Et les journalistes reçoivent des dépêches et effectivement ne les vérifient pas. Ou en tout cas ne les analysent pas. Mais n'empêche qu'ils nous la donnent, l'information, qui est soi-disant une information. Et quelquefois, elle est démentie. C'est trop tard. Le mal, il est fait. Par exemple, on a trouvé des armes de destruction massive en Irak. Et puis 2 heures après, non, c'était pas vrai.
Mais on voit bien les méfaits. Aux États-Unis, ils croient encore.
Ils sont crédibles. Ils perdent leur crédibilité.
Mais c'est un choix qu'ils font quand même. On peut dire ah oui, mais ils sont forcés de donner l'information de plus en plus vite. Moi, je crois que c'est pas vrai.
C'est la course à l'audimat aussi. Donc oui, si tu dis pas l'information avant l'autre,
exactement. Concurrence sur la rapidité de l'information plutôt que sur la crédibilité de l'information. C'est un choix qu'ils font.
Oui,
ce côté-là.
Tout à fait.
Ils auraient dû faire le choix de.
Et il y a aussi le problème du choix du commentateur par rapport à un fait ou de l'invité spécial, le spécialiste sur tel fait. Donc il y a mettons dans l'après-midi, il y a un avion qui s'écrase sur des tours, et hop, le soir, pof, t'as un spécialiste qui vient te parler de ça.
Ils avaient
spécialiste du terrorisme, etc. Et il n'a pas eu le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et là, il faut qu'il réponde à toutes les questions. Et le mec, en fin de compte, il en sait pas beaucoup plus que toi. À ce moment-là, parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir.
La télé, c'est que même s'ils le savent très bien, ça, ils vont te foutre quelqu'un 2 heures après qui va analyser, il n'a pas eu le temps de le faire. Il va dire quand même. Le problème avec surtout les 20 heures, parce qu'après il y a d'autres émissions, c'est qu'ils ne vont pas revenir dessus. Et c'est là que c'est très dangereux, ils ne reviennent pas dessus. Et on le voit bien, ça a été la guerre en Irak. Ah bah ça, des flashs d'informations, on en a eu. On a eu que ça, ils nous ont même coupé des émissions. L'après-midi, il n'y avait plus urgence.
Pour
nous montrer des images qu'on avait déjà vues, des machins verts qui passent.
Maintenant que la
guerre est finie, maintenant que c'est intéressant d'analyser les choses, maintenant que c'est intéressant de nous expliquer...
D'où la rapidité des commentaires aussi.
Mais même pendant la guerre, ça aurait été intéressant de faire des flashs à la limite, mais d'en profiter pour mettre en abîme par rapport à la guerre précédente, de parler de l'historique, qu'est-ce que cette région, qu'est-ce qui s'y est passé depuis 10, 15, 20 ans.
Oui, mais c'est pas le rôle du journal de 20 heures. Ils ont une demi-heure, ils ont pas le temps.
Il y a
des tas d'émissions autres que le 20 heures où ils expliquent ça, où ils prennent le sujet pendant une heure. Et ils en parlent. Ils expliquent.
C'est ce qui s'est passé.
Il y avait plein d'émissions où ils en parlaient. Mais dans le 20h, c'est vrai que les mecs, ils avaient des trucs qui arrivaient. Ils disaient ça, ils en parlaient vaguement. Ils donnaient le truc à brûle pour point sans regarder. Juste des faits, sans aucune analyse ou très peu.
Mais même
et
pas de faits.
Voilà.
Quand t'as pas de faits, tu fais des analyses.
Ouais, parce que surtout pendant le conflit en Irak, ils n'avaient même pas de faits puisque c'était tout conditionnel.
Les commentaires, parce que en Irak, là, il y a un moment donné, les Américains étaient enlisés. Et donc il y avait un problème déjà dans le choix, parce que forcément il y avait tout de suite la référence au Vietnam, ils étaient enlisés, c'était catastrophique et tout. Et puis ensuite, ben maintenant on regarde, ben dans la réalité visiblement ils devaient pas être tellement
si enlisés. Il y avait une troupe,
enfin il y avait un bataillon dont qui était coincé dans le désert, donc l'armée était enlisée. De même qu'il y a la résistance.
C'est un petit peu con ces Américains en plus, parce que plutôt d'être enlisés, ils auraient mieux fait d'être en Irak quand même.
C'est pas faux. De même que on a entendu, parce que nous c'est plutôt la radio, mais on entendait la résistance irakienne, et ensuite ben on apprend qu'il y a eu 3 coups de feu. Donc c'était la résistance. Oui, il y a eu 3 coups de feu. Bon, c'est quand même.
Et justement, la télé essaye de nous montrer ce genre d'informations, et en fait ils prennent plus ou moins parti. La façon dont ils font les commentaires, les images qu'ils veulent bien nous montrer, elles sont choisies. Donc il y a plus ou moins une prise de parti. Je parle même pas de camps ou anti-américains ou anti-irakiens. Même pas là la question. Il y a une prise de parti. Il y a une interprétation que ne fait pas le spectateur.
Non, puis ce qui est nul, c'est cette tendance à au larmoyant, parce que nous, on l'a pas vu. On n'a pas vu les images, mais le gamin comme ça qui était sur son lit, qui avait plus de bras, qui était carbonisé.
Et puis ça y est, ils en remettent une couche, parce que maintenant il y a des vedettes hollywoodiennes américaines qui veulent bien lui payer le voyage.
Ouais.
Pour
enfin bon, c'est pas si grave que ça, parce que si tu veux, comme me disait ma mère qui est infirmière, ce gamin il est mort, on peut l'emmener dans n'importe quel hôpital ou autre, il mourra, il est foutu.
Non, mais c'est vrai que ils prennent le parti de choisir une toute petite information parmi la grande, plutôt que, parce qu'ils nous ont jamais dit que le 20h devait juste nous donner des faits ou des choses comme ça, parce que dans certains domaines, ils nous expliquent.
Non, et très vaguement.
Ils nous expliquent.
Mais on est dans un cas très particulier, qui est le pire de tous, c'est une guerre où les mecs donnent pas les vraies informations, parce qu'ils font la guerre, donc ils vont pas dire, demain à 8h30, on va venir chez toi, puis on va te tirer dessus.
Là où t'as le moins d'informations, c'est quand même quand c'est une guerre.
Ouais, donc on est dans lequel le pire. Mais les journalistes, c'est vrai, alors à la course du sensationnel qu'ils ont tout le temps, ils essayent de trouver des trucs à raconter. Donc et puis là, évidemment, il y a des dérives immenses et de plus en plus. Malgré le fait qu'il est, puis les militaires disent pourquoi maintenant il y a de la transparence, on fait venir des journalistes avec nous, mais c'est pipeau tout
et,
ça.
Et justement, je trouvais que la façon dont il parlait là pendant le conflit irakien était différent de ce qu'il nous avait montré pendant la première guerre du Golfe. Je crois que quand même il y avait un petit mieux avec justement cette façon de parler au conditionnel. Il se pourrait que, nous ne savons pas trop. Pour une fois, je trouvais, il nous le disait qu'il ne savait pas trop. Peut-être parce que d'abord ils se sont fait vachement avoir sur la première guerre, parce que justement tout était contrôlé par les Américains, et aussi peut-être grâce à la position de la France qui ne prenait ni un camp ni l'autre. Enfin, en gros, et qui justement, comme on a parlé beaucoup de propagande, ne voulaient pas faire la même chose, donc ils ont peut-être.
Alors, moi, ce que j'ai suivi, c'est donc sur France Inter, ils parlaient du choix des journalistes. Donc, les journalistes qui ont été envoyés ont été beaucoup plus formés que pour la première.
Tu veux dire qu'il y avait des nichons ?
Voilà. Et donc déjà il y en avait qui avaient déjà couvert la première, donc ils ont déjà couvert des guerres, et ensuite ils ont été formés à tout ça avant, et donc ils n'ont pas été pris comme au début. On arrive.
Ils nous ramenaient pas grand chose à nous dire. Alors justement.
Non, mais il m'a semblé que c'était globalement mieux.
Pourquoi est-ce qu'ils vont nous faire un flash info, un journal spécial d'une demi-heure pour nous dire qu'ils ne savent rien, qu'ils savent pas grand chose, qu'ils ont pas grand chose à nous montrer, et que de toute façon c'est pas très intéressant, et que du coup ils laissent toute l'autre partie de l'information à l'écart. Donc du coup en France il se passait plus rien, on voit les dégâts maintenant, merci,
c'est bon, et on avait même plus urgence,
on nous a bien endormis.
J'ai une question là-dessus que je me pose, c'est savoir en fait s'il y avait en même temps la Coupe du Monde de foot, le Tour de France et la guerre du Golfe, duquel on parlait en premier.
La Coupe du Monde,
sachant qu'on gagne le Tour de France et le foot, tu vois, en même temps.
Pendant la guerre du Golfe, il a fait très beau en France. C'est con, hein. Il a fait très très beau en France, mois de mars exceptionnel, machin et tout. S'il n'y avait pas eu la guerre, pendant tous les journaux télévisés, pendant un mois de mars, on nous aurait montré, vous avez vu les gens à Cannes, ils sont contents, ils vont au soleil, machin et tout.
Ils se baignent.
Voilà. C'est cette répartition de l'info, et puis de façon quand même plus importante que le beau temps, la politique intérieure en France qui a beaucoup bougé, et en fait on se fait bien avoir maintenant, le réveil va être douloureux.
Ça n'a pas tant bougé que ça, ils auraient pu faire bien pire.
Ils auraient pu faire bien pire.
Moi j'ai pas fait grand chose pendant le mois.
Le réveil va être douloureux quand même. parce qu'on sait pas tout ce qu'ils ont quand même discuté ou justement pas avec nous.
Ouais, on l'aurait pas su. Plus, de toute façon, d'un autre côté, ils t'auraient parlé de comment maigrir et tout à la place.
Ouais, donc, non, ouais, non. Le truc de la télé, maintenant, ce qui est dommage, c'est que je trouve que les infos, ça ressemble un peu au journal détective qu'on nous a décrit un peu avant, quoi. Il faut faire du scandaleux, du catastrophisme. Moi, je me souviens de l'après 21.
La voiture jaune du mec, là, en fait.
Je me souviens de l'après 21 avril, l'année dernière. Et alors, ils étaient allés filmer un type dans sa banlieue qui montrait des trucs, etc. Pourquoi il avait voté FN? Parce que, voilà, dans sa cave, c'était tagué, bidule. Et puis, mais il était même pas fichu d'expliquer à quoi ça référait. Mais il trouvait que c'était un petit peu insultant quand même, parce que c'était tagué sur le mur et c'était en noir. Et donc, il y avait peut-être un mauvais signe dedans. Mais bon, quoi, c'est tout. Mais il fallait vraiment montrer du sensationnel, quoi.
Ah oui, tout à fait.
Pour faire pleurer la ménagère.
Et donc justement, on perd l'avantage que pourrait avoir la télé de nous donner des informations rapidement, mais expliquer, analyser, etc. Maintenant, on fait du sensationnel, on fait vite, on interviewe n'importe qui, coup de micro trottoir, qu'est-ce qu'on en a à foutre que la bouchard d'en face.
Mais je tiens à préciser que c'est surtout le 20h. Il y a quand même beaucoup d'autres émissions qui, ouais, il y a toujours un peu ce côté sensationnel. Il est toujours là la télévision, mais il y a beaucoup d'émissions, notamment Mots croisés, où c'est un débat, il n'y a pas d'image, on montre pas. Oui, mais l'émission, elle est là, ils essayent d'expliquer. Quand ils prennent des spécialistes de l'Iran, c'est pas un gugus machin, c'est le ministre de ceci de l'Iran, donc c'est des gens.
Bon, non, mais tout à fait, mais je parlais effectivement essentiellement du 20h. C'est le journal de l'information. Qui est énormément diffusé,
oui,
énormément
vu. Il y a beaucoup de gens.
Il est dangereux parce que maintenant il crée les phénomènes. C'est pas qu'il nous les relate, c'est qu'il les crée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux journaux face à face, TF1 et France 2, ont strictement le même sommaire, et même en zappant, c'est en même temps, les sujets sont traités en même temps, de façon légèrement différente. Et ils ont donc un choix sur l'information qui n'est pas forcément représentatif de l'information en général, de l'actualité en général dans le monde et en France. Ils créent les phénomènes.
Donc, ils choisissent leurs priorités.
Ce qu'on va parler entre nous, c'est pas de l'actualité en général, c'est ce que on nous a donné les deux journaux télévisés.
Je te rassure, mes collègues me parlent de Fear Factor, pas de 20h.
C'est terrible. Je vous en parlerai peut-être.
D'accord. Eh ben, maintenant, merci Béatrice.
Ben, merci pour vous, pour le débat.
Hein. Donc, on a largement dérivé sur un cas très particulier.
Il est déjà 20h. Hein.
Et, t'as un petit truc à dire?
Oui, j'ai un
merci.
Bah, vas-y. J'ai un tout petit truc à dire, en fait, c'est que.
Mais c'est pas fini, hein, parce qu'il continue, lui.
Mais on va être obligé de dire au revoir à notre première émission, en fait. Très très concrètement pour des problèmes d'espace de stockage
sur le site
donc il y aura une nouvelle qui en parlera sur le site, etc. Et puis je pense qu'on appellera les gens qui a voté, tout ça, on fera ça
ouais, mais je crois que t'avais dit de toute façon ceux qui avaient besoin
pour démarrer, mais voilà, pour dire que au revoir la première émission, voilà.
D'accord, bah au revoir, on fait une minute de silence.
Bonjour Numa.
Hop, on n'a pas le temps,
on parlait de quoi déjà?
Donc et ben maintenant Numa qui va nous parler encore un petit peu de la télévision par l'intermédiaire de la voix de Pierre Bourdieu.
Oui, mais c'est plus lui qui parle que moi.
Oui, d'accord.
Voilà. D'un autre côté, il est mort, alors j'espère qu'il va dire deux trois trucs quand même.
Ouais, quand même un petit peu. Alors donc déjà donc c'est un petit livre rouge comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je le montre.
Pourquoi ça a une importance qu'il soit rouge?
Aucune.
Non, il est rouge.
Aucune, mais c'est que de mémoire, ça fait référence à un autre livre.
Oui.
Mais ça n'a strictement rien à voir. Bon. Donc ça s'appelle sur la télévision. Alors donc Pierre Bourdieu donc c'est bien ce que tu me disais, il est mort.
Quoique, tu as trouvé sur internet qu'il était mort mercredi.
Oui, c'est vrai.
Sans date, rien.
Oui, non, parce que j'avais pas trouvé la date. Alors j'ai fait une recherche et je suis tombé sur une page qui n'était pas datée, qui m'apprenait qu'il était mort mercredi soir.
Bah moi je suis né mardi, moi. Par exemple, tu vois.
Moi je suis né mercredi et putain, le même jour que Pierre Bourdieu.
Moi je suis né un jeudi, donc bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire, Numa.
Voilà. Alors donc il est né en 1930 et il est mort le mercredi donc 23 janvier 2002.
Ah, c'est un somme anniversaire non.
D'un cancer, mais bon c'est pas grave.
Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ce monsieur?
Il était sociologue.
Ah.
Au Collège de France.
C'est pas un imbécile, a priori.
A priori, non, quand même. Ensuite, il s'est engagé, notamment pendant les grèves de décembre 1995. Donc, c'est un scientifique qui s'engage. Donc, c'est un petit peu particulier.
C'est pas un scientifique, c'est un sociologue.
Sciences
humaines.
Sciences humaines, normalement. On va pas dire qui est là-dessus, parce qu'il est insupportable.
Donc j'arrête là, sinon elle va être insupportable. Alors donc sur la télévision, ça présente.
Je voulais vous dire à propos de Bourdieu qu'en fait on parlait tout à l'heure de Chomsky. Et je crois que je suis en train de devenir amoureuse de lui presque autant que de Jacquard. Mais voilà, ça n'a aucun rapport avec Bourdieu, mais je voulais le dire.
Pourtant, tombe amoureuse de Jacquard.
Ouais, parce que Bourdieu est quand même mieux physiquement que Jacquard, mais maintenant il est mort.
Il est mort.
Oui, mais c'est Chomsky qui me plaît maintenant.
Chomsky, ah ouais, ouais, d'accord. Il passait le truc à l'entrepôt à côté. Alors donc sur la télévision, donc ça présente deux cours télévisés de Bourdieu au Collège de France. Alors donc le premier cours qui s'appelle Le Plateau et ses coulisses, donc ça démonte, attention, c'est un peu compliqué des fois, donc ça démonte les mécanismes de la censure invisible qui s'exerce sur la télé. Donc, voilà.
D'accord.
Et donc la seconde partie, c'est la structure invisible et ses effets. Voilà, et donc ça présente la manière dont la télévision est soumise à l'audimat, ce qui l'oblige à penser en termes de part de marché, d'où la course à l'audience pour accroître les gains. Donc c'est ce qu'on disait avant, mais si on veut comprendre, enfin c'est une bonne base de compréhension le livre, évidemment, il n'y a pas tout dedans. Alors moi je vais vous parler juste du premier chapitre pour vous donner envie de potasser, surtout que ça fait 95 pages, donc c'est vite lu, même si moi...
C'est des petites pages en plus.
Ouais, c'est des petites
mais
pages.
Mais c'est écrit tout petit aussi.
Oui, c'était petit, c'est écrit petit.
Ouais, et moi, je peux vous dire que ça met long à lire. Hein.
Et pour les vrais feignants, il y a plein de résumés, plein
de trucs et tous ces textes sur internet, textes, entretiens, etc., etc. Alors donc d'abord, il débute le livre, c'est un bon commencement par un préambule de 3 pages où il met en évidence le fait que la télévision est un lieu d'exhibition où l'on vient pour se montrer et non pour essayer de faire passer un message. Donc voilà. Ensuite, il va aborder le thème central de la première partie, qui est la censure. Alors donc cette censure, elle est entre autres au sujet. Donc c'est évidemment c'est toujours lui qui le dit. Hein, au sujet imposé, donc notamment une émission télé va parler de ça. Donc si on veut parler d'autre chose, forcément on n'est pas le bienvenu ou on n'est pas invité d'ailleurs. Alors les conditions de la communication, c'est-à-dire que dans une émission, on a un temps de parole, on parle à son tour et il y a tout évidemment. De tout ce qui est technique autour qui va interférer sur le propos ou ce qu'on veut dire.
Jusqu'ici, c'est comme quoique.org.
Exactement, ouais, on s'en rend compte quand on le fait. Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. j'ai pas compris.
Sauf que je te coupe la parole, mais sinon, on a un temps de parole, chacun parle à son tour, il y a des sujets imposés.
Il y a toujours un gros con qui va te couper la parole aussi, donc.
Voilà, on est moins cadré qu'à la télé.
Non, c'est vachement je dur. Ne coupe pas la parole, j'interromps les chroniques.
Non, mais là, mais justement.
Les spécialistes du coupage de Carole, de Carole. De parole.
Non, mais justement, là, il démonte les mécanismes qui font que c'est une forme de censure, le fait d'avoir à parler 10 minutes.
Oui, le mec qui arrive avec son gros panneau de 2 minutes.
C'est une forme, mais après, c'est comme ça, il faut bien qu'il y ait des limites. Mais lui, il dit pas le contraire, il explique comment ça marche.
En fait, c'est une émission très drôle pour ceux qui aiment le mime, cette émission. Je ne peux pas tout vous raconter, mais depuis tout à l'heure, il y en a plusieurs qui me font rire.
Alors,
et c'est du mime.
Voilà, donc il y a une forme de censure donc, qui s'exerce sur les invités, évidemment, mais aussi sur les journalistes eux-mêmes. Alors donc là, il explique dans cette partie que ça peut être aussi pour la cause donc la précarité de l'emploi dans les professions de la télé et de la radio, d'où, là on y va fort, d'où un conformisme politique. Lui, ce qu'il explique, alors c'est quoi la petite phrase, voilà ça. Donc les gens se conforment par une forme consciente ou inconsciente d'autocensure sans qu'il soit besoin de faire de rappel à l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une émission sponsorisée par machin ou par bidule, ou que le directeur des programmes est de telle ou telle appartenance politique, on va être plus à même de traiter de consciemment ou inconsciemment les sujets d'une manière ou d'une autre.
Surtout quand on est pigiste et pas en CDI.
Voilà.
Et en une phrase, vous avez compris que ce bouquin est sponsorisé par Doliprane et Aspegic.
Merci.
Pourquoi tu l'as lu?
Non, tu m'en as lu plein de morceaux.
Oh là là, je lis pas bien. Alors pour en venir à la censure économique, qui est un argument nécessaire mais pas suffisant. Mais c'est quand même intéressant de savoir quels sont les annonceurs d'une télévision, combien l'État donne de subventions. C'est évidemment ça fait pas tout. C'est qui le propriétaire de la chaîne. Mais c'est quand même toujours intéressant de savoir ces petits détails. Là, je les ai pas notés, mais on retrouve des informations sur les multinationales qui possèdent des chaînes aux États-Unis, donc NBC, etc., etc.
Ouais, mais j'ai eu des informations un petit peu comme ça des fois, mais un petit peu parcellaires en fait. C'est quelque chose que moi j'aimerais bien avoir en fait. C'est une espèce de carte d'arbre complet en fait de toutes les dépendances financières qui puissent. Mais oui, mais ça
c'est vachement compliqué.
Oui, mais
c'est
justement ça peut se représenter quand même.
Quand on commence à apprendre certains trucs de ce genre, qu'on se rend compte qu'on ne sait plus rien.
Mais oui, mais là t'en as une vision, enfin qui est sûrement très intéressante, mais qui n'est que partielle.
Oui, mais lui il dit ce n'est que partiel, mais par contre c'est utile et nécessaire si on veut comprendre, de savoir que par exemple que CBS est la propriété de Westinghouse, que ABC est la propriété de Disney.
En France là les
gardiens, c'est Bouygues. Bon, bah c'est des choses qu'il faut quand même, il faut savoir.
Donc ils font des lofts.
Voilà. Alors ensuite, Pierre Bourdieu explique ensuite que la télévision est une source de violence symbolique. Alors donc là, je vais laisser expliquer parce que c'est
oui.
Non, mais c'est super clair, mais comme j'avais peur d'être moins clair que lui. Donc la violence symbolique est une violence qui s'exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent et aussi souvent de ceux qui l'exercent dans la mesure où les uns et les autres sont inconscients de l'exercer ou de la subir.
À toi.
Tu m'agresses là.
Alors, donc c'est enfin.
C'est lui
compte,
qui m'a fait mal à la tête là.
Alors c'est pas si difficile que ça à expliquer. En fin de compte, lui il explique ça en parlant des faits divers à la télé. Donc qui vont nous. Donc là c'est une violence insidieuse et la violence elle n'est pas où on croit. Elle n'est pas dans le fait divers. Elle est dans le fait de présenter des faits divers qui par exemple aux 20h qui vont bouffer du temps de parole sur des choses ou sur
plus
des sujets qu'on pourrait
imaginer plus
important ou sur
le
par
Tour
exemple,
de France.
Oui, mais donc là lui c'est ce qu'il appelle des sujets le Tour de France, c'est ce qu'il appelle lui un sujet omnibus, c'est-à-dire le sujet consensuel qui plaît à tout le monde, donc ça emmerde personne.
Oh si alors.
Oui, non mais
il supprime urgence.
Oui, mais c'est pas très grave. Ou alors par exemple, je sais pas moi, un sujet sur la pédophilie, tout le monde va faire ah c'est dégueulasse.
Tout le monde.
Bah,
oui,
c'est pas bien d'être pédophile. Hein. Puis comme dirait l'autre, hein, je suis pas pour la peine de mort, mais quand même il y a des cas, il faudrait tuer les gens. Hein.
Oui, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Alors donc en fin de compte, donc des faits sans enjeu qui font consensus, qui ne divisent pas, donc tout le monde est d'accord. Donc lui, il appelle ça des faits omnibus. Je suppose que
c'est pas des faits propres à la télévision, ça.
Ben non, mais ouais, c'est mais lui là le titre du bouquin, oui, c'est sur la télévision. Donc oui, oui. Là lui il explique les mécanismes de la télévision, mais après on peut évidemment les retrouver ailleurs.
Bien sûr.
Ouais.
Mais
il le dit pas.
Ben non, parce qu'il parle de la télévision.
Mais et sans doute avec moins d'impact. De toute façon, la télé a énormément d'impact. On fixe tout moins que si on les lit.
Ben on a eu beaucoup sur Pierre Bourdieu, il en a fait un livre. Et un cours c'est tiré d'un cours qu'il donnait au Collège de France d'ailleurs, ça.
Deux cours différents.
Je pensais que c'était des cours au Collège de France 2 et je me disais.
Alors donc moi je sais même plus où j'en suis. Alors
page
donc,
92.
Non, c'est page 17.
Merde.
Alors, il en reste combien?
Non, parce que là j'avais trouvé une petite citation, parce que justement par rapport à je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'on a été coupé. Alors on perd du temps et le temps est une denrée extrêmement rare à la télévision. Et à la radio
et
aussi.
Et à la radio aussi.
Alors donc, si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Donc là, c'est ce que je disais avant. Et donc si j'insiste sur ce point, enfin je dis « j'y » parce que...
Je cite. Que
tu lis.
Je cite. C'est qu'on sait par ailleurs qu'il y a une proportion très importante de gens qui ne lisent aucun quotidien et qui sont voués corps et âme à la télévision comme source unique d'information.
Voilà.
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Et donc c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que sinon après j'étais niqué dans ma chronique. C'était quand tu disais qu'il y a bien des émissions télévisées ou des débats, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ils ont comme unique source d'information le 20h.
Le 20h, oui. Des fois, c'est le M6 Express seulement.
Oui, des fois, oui. Ou alors.
Justement, le M6 Express, à la limite, est plus proche des faits.
Bah, c'est les dépêches, c'est les dépêches d'AFP.
Alors qu'il vaut bien.
Il y a des images.
Il
voilà.
y a des images, encore, des fois,
tout ce que
encore
j'ai
plus.
Tout à l'heure.
Ou alors, en presse écrite, on a aussi le métro ou 20 minutes, là, les machins prédigérés.
Pour les Parisiens.
Et les feignants.
J'adore quand tu lis, Numa, parce que vraiment, j'ai l'impression que Pierre Bourdieu n'est pas mort.
Je non, sais pitié. Pas si c'est un compliment parce que enfin bon, je
est-ce que Pierre Bourdieu fait de la poésie?
Non, je crois pas.
Ah, non, il faisait de la sociologie, maintenant il fait rien.
Ah oui, mais sans
il se repose
voilà. Sans poésie de Numa Bourdieu à la fin de l'émission.
Mais t'inquiète pas, j'en ai fait une super bien.
C'est ça les minutes précieuses là en ce moment là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors donc ce livre est important. Là, ça me hein. Oui, car la télévision se trouve être le média principal pour bon nombre d'individus.
Tu viens de nous le dire.
Bah oui, mais je répète, c'est une conclusion là. Et je raccroche, sinon on comprend rien. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que je l'ai choisi car le thème de l'émission était les médias. Alors,
c'est un bon jeu.
Ok.
Et donc, j'ai pensé tout de suite à Pierre Bourdieu. Ouais, voilà, je l'ai acheté exprès pour. Alors, pour tout dire, je l'ai pas fini parce que j'ai trouvé d'autres livres à lire et que le sujet était chiant quand même.
En fait, il est en train de lire le cycle d'Elric, là, Elric de Mélanie Bonnet, c'est plus drôle.
Voilà. Et donc, mais cependant, je pense que j'ai quand même lu le premier cours en entier d'une traite. Donc, je pense qu'il démonte parfaitement les mécanismes de cette petite lucarne qui éclaire bon nombre de foyers le soir. Ça, c'est un petit truc qui fait peur quand on rentre chez soi le soir et qu'on regarde de les appartements et on voit partout des petites lumières bleutées, c'est la télé dans tous les apparts et là vous regardez, il y a tous les gens, ils sont devant leur télé.
Bah
si
oui.
Tu vois les écrans bleutés, c'est que les gens ne sont pas devant, sinon ils te le cachent.
Oui, c'est.
Pas, tu vois, ça
une alors là, voilà, tu gâches toute la poésie, toi. Alors donc voilà, ceci dit, si vous n'avez
une éclipse de télé, c'est joli.
Ouais, c'est joli. Hein. Si vous n'avez pas la télévision.
Une éclipse de Mercure. Oui.
Ouais. Non, c'était hier.
C'était hier. Oui.
Ouais. C'était hier.
Mais de toute façon, toi, si t'avais la télé, tu
voilà,
le saurais.
Tu le saurais. Et tu aurais vu les images. Ça par contre,
il
faut bien voir.
Ben à la radio, ils en ont parlé.
Oui, mais ils n'ont pas montré les images.
Alors, voilà, donc, voilà. Ceci dit, si vous n'avez pas la télévision, vous n'êtes pas obligé de le lire. Quoique, si vous le lisez, vous pourrez savoir pourquoi vous n'avez pas acheté le dernier modèle super grand écran de Dolby Surround qui allume, avec allume-cigare et barre incorporée. Enfin bon, si un soir vous n'avez
pas. Barre incorporée.
Il passe aspirateur?
Oui, bah oui,
tout de suite.
Enfin, si un soir vous n'avez pas envie de gober devant la télé, que vous ne voulez pas lire et bien aller voir au bar si j'y suis.
D'accord. Okay. D'accord. Ah. D'accord. On va y aller.
Je l'emprunterai bien quand même le bouquin.
Non, mais je vous rassure.
Il l'a pas fini.
Je vous rassure.
Je finirai pour lui.
Il faut dire aussi que Bourdieu a eu quelques expériences assez cuisantes à la télévision, notamment dans une émission sur Arte
qui
s'appelle Arrêt sur image, C'est la cinquième, oui, pardon. Qui critique et qui juge un petit peu la télévision, donc qui.
Il
y était passé, et là, justement, il n'a pas eu le droit de dire du tout ce qu'il voulait. Il a écrit un article qui s'appelle La télé peut-elle juger la télévision? Et il a écrit un article qui a été diffusé dans Le Monde, qu'on trouve très facilement sur Internet.
Oui,
et c'est très intéressant. C'est très long, mais c'est très intéressant. Ah, pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Et puis aussi, je voulais conclure un petit peu parce que là, j'avais lu un entretien entre Pierre Bourdieu comment il s'appelle, celui qui a écrit le tambour. C'est pas Chomsky, c'est rien
non,
à voir.
C'est lui à qui je pense en ce moment.
Je t'en ai parlé cet après-midi au téléphone.
Oui, mais je me souviens
plus. Oh ben merde, alors là ça fait
parce un moment. Je le connaissais pas avant.
José Triani.
Non, c'est un Allemand. Bon, ben on va t'emmerder.
Manu Katché.
Barbara Kirkland.
Ah, ben là je sens que je suis vachement soutenu sur ce coup-là.
Ouais, toi si tu veux, au lieu d'écrire plein de conneries, de les scotcher sur ta feuille.
Si je notais des trucs intéressants, ouais, ça serait pas mal. Ouais.
Il fait des coupes-coller humains sur ses notes. Il y a des trucs qui sont agrafés sur une feuille.
Non, c'est découpé, agrafé, c'est fait manuellement.
En fait, il est sponsorisé par la société 3M qui fait du scotch et puis.
Ouais, bravo. Voilà.
Bon, enfin, de toute façon, c'est pas grave. Dans l'entretien, c'était Günter Grass. Donc l'entretien avec Günter Grass, on sentait la différence entre Günter Grass, qui est quand même un personnage d'une grande culture, mais quand on le voit, il y a la bonhomie, il y a une forme de bonhomie, alors que chez Bourdieu, on voyait quand même, comment on pourrait dire ça, le réac sec de gauche.
C'est un emmerdeur.
Oui, mais emmerdeur, justement, on dirait vraiment le mec qui boit de l'eau et qui ferait bien un petit peu de se détendre et arrêter un petit peu des fois.
C'est pour ça que je dis que c'est un emmerdeur, ouais, c'est un type qui passe pas très bien à la télé en plus.
Ouais, puis même dans,
il s'est fait
dans
taper
salon,
dessus
il
à, la suite, à la suite des grèves de 95, il s'est fait taper dessus en disant c'est pas normal qu'un sociologue prenne parti comme ça. Enfin, il a eu, je disais justement tout à l'heure, des expériences très très cuisantes avec les médias et la télévision.
Et moi, j'aime
ça, c'était le seul.
Il n'est pas forcément.
C'est un autre problème des médias, c'est que, en fait, pour y passer, faut être photogénique, faut être bien. Faut
oui,
avoir
oui,
ça,
non, mais c'est un problème que j'ai pas abordé.
Pas dire grand chose, rien de chacun.
Appliquer surtout un seul
faut
passage.
Faut plutôt être sympathique que photogénique.
Un seul passage.
Mais je regarde
Sim,
il est souvent à la télé.
Oui, mais c'est
on va retenir quelque chose.
C'est ma chronique. Non, c'est un problème que j'ai pas abordé tout à l'heure, c'est le fait, par exemple, un écrivain, pour qu'il soit présenté à la télé, souvent il faut qu'il présente bien. Et donc on lui demande pas de bien faire son boulot, c'est-à-dire de bien écrire, on lui demande de bien présenter à la télé et d'avoir.
Et pourtant Pivot a invité plein de fois Modiano, qui sait pas s'exprimer, c'est très chiant.
Bah oui, voilà, ouais, c'est chiant. Mais est-ce que ça, Modiano c'est le pire à la télé, mais pourtant moi c'est un écrivain merveilleux. Mais par contre, voilà. Est-ce que quand tu le vois à la télé,
non,
ça
on
donne
a,
envie
on a,
toi
non, on n'a pas envie parce que effectivement, en plus dans une émission comme celle de Pivot, moi, c'était vachement agréable d'entendre.
Je l'ai vu une fois Modiano et.
Choses à dire, etc. C'est vrai que, à contraire de ça, moi, j'aime pas regarder une émission sur n'importe quel sujet où les gens savent pas s'exprimer et n'ont rien à dire.
Voilà, bah, ouais, mais moi, je trouve ça dommage parce que pourtant,
Modiano
est quelqu'un
par contre,
de magnifique à lire.
Mais voilà.
Et ce que je regrette, c'est que il soit si nul à la télé, mais heureusement
que
je le connaissais avant.
Bukowski n'avait pas grand-chose à dire non plus, mais il a fait le spectacle et tout le monde a retenu qu'il était Bukowski.
Il voit pas que de
l'eau. Il a beaucoup de choses à dire.
Il vous reste à faire pour passer à la télé.
Ah bah oui, mais...
Oui, mais il y a des moments où il ne fallait pas trop lui demander quand
et
même.
Justement... Non, surtout après deux bouteilles de blanc. Il a eu du mal.
À ce sujet-là aussi, il semblerait que. Alors, ça, c'était. Je ne sais pas exactement. Mais que lorsqu'ils l'ont invité sur le plateau, tout le monde évidemment connaissait le penchant de Bukowski pour la bouteille. Donc, il était quand même à la période de la fin de sa vie où il était à moitié en sevrage avec sa femme. Enfin, c'est pour ça qu'il a un petit peu.
En sevrage avec sa femme.
Non, mais en fin de compte, visiblement, sa femme le tenait un petit peu. Ouais, le tenait un petit peu pour éviter qu'il s'atomise trop la gueule. Et quand il arrivait sur le plateau, ils lui ont fourni.
Tu fais la gueule, il me tourne le dos.
Il lui aurait pas fourni les bouteilles, c'est lui qui les avait amenées.
Ben, moi j'avais lu qu'il lui aurait fourni, c'est pour ça que
j'entends. Il faudrait demander à Cavana qu'il connaissait bien, et apparemment c'est lui qui les avait amenées.
Mais oui, mais on lui aurait donné. Ben oui, donc après on sait pas. Donc ça fait.
D'accord.
Le poème, un humain.
D'accord.
Le poème alors.
T'as fini, poème. C'était ta conclusion.
Le sujet de.
J'ai fait ma conclusion avant, mais après on a débordé.
Et le sujet de la prochaine émission pourrait être Bukowski et la boisson parce que ça a l'air.
Bah, c'est déjà traité.
On a 2 heures à partir.
Le poème.
Alors le poème d'abord le chapeau qui est tombé tout à l'heure en témoigne. En fin de compte,
c'était un canotier, non, c'est ça. On n'a pas bien vu en tombant.
Oui. Alors donc c'était un petit. En fin de compte, là, j'étais un petit peu pris de court. Alors j'ai pris un mot dans le dictionnaire. J'ai demandé à Flo un mot qui rime. Et ensuite j'ai fait des rimes en brassées. Puis voilà. Donc ça a fait un truc un peu bizarre, mais c'est rigolo quand même. Alors ça fait sur le trottoir, je suis resté stagnant. Il faut dire que j'ai perdu mon bivouac. Serait-ce un abus certain d'Armagnac qui m'aurait mis dans un état passionnant? Comment décoller mes pieds et surtout, comment pourrais-je obtenir une traction afin d'effectuer l'impossible miction, me permettant de faire sauter les mérous? C'était la rime avec mérous, j'ai un petit peu galéré. Sur le trottoir d'en face, passe tout grain, mes pieds se décollent, je chante serein.
Bravo, hein.
Parce que la rime avec passe tout grain et serein, j'en ai chié aussi.
Et arrête les commentaires en plein milieu du poème, hein, ça casse le rythme.
Ouais, mais j'en ai chié.
Et c'est dommage. Mais ouais, bravo quand même.
C'est vrai que honnêtement, c'est vrai que commenter un poème en disant j'en ai chié, bon, c'est pas.
Oui, en plus, hop là, j'en ai chié.
Mais ça allait avec miction.
Oui, c'est vrai. Oui. Ouais.
Je pense que pour la fois prochaine, je vous lirai un poème de Pierre Louis, comme ça choquera pas d'artiste.
Oh oui, ils sont jolis ceux-là.
Donc et ben voilà. Donc c'était passionnant tout ça. Hein. C'était pas très très rigolo.
Hein, si Valérie, c'était vachement drôle.
Bah, on pourrait peut-être faire une petite conclusion générale un peu sur tout ça, non?
Je sais pas, on va vous dire ce qu'on a trouvé dans Détective à Los Angeles.
Je pense une conclusion générale.
Ah bon, non, mais moi ça. Ouais.
Ah bah, vas-y.
Alors, le bébé est étendu. inerte dans un berceau médicalisé de l'hôpital pour enfants d'Orange County, près de Los Angeles. Ses yeux noirs sont grands ouverts. Oula, pardon. Ses yeux noirs sont grands ouverts, mais il ne voit rien.
Non, attends, ses yeux sont noirs ou verts? J'ai pas compris.
Ses yeux noirs sont grands ouverts, mais il ne voit rien. Mm-hmm. Il y en a encore après. De temps en temps, un soubresaut agite son corps menu. Pourtant, le petit Christopher ne réagit ni à la voix, ni au sourire. Voilà près de 17 mois qu'il est plongé dans un état semi-végétatif. Seules les grosses machines d'assistance, reliées à sa gorge et à son abdomen par des tubes en plastique, le maintiennent en vie.
Je vais vous raconter.
Mais c'est pas drôle non plus. Hein.
Faut que je continue.
Vas-y, arrive à la conclusion quand même.
C'est absolument superbe. En fait, c'est un gamin qui a été battu par son père. Donc le père est en prison parce qu'en attendant le procès. Et le gamin, il est entre la vie et la mort. Et la mère demande à ce qu'on débranche le respirateur pour que le gamin meure parce qu'il souffre en attendant. Mais il faut que les deux parents soient d'accord pour qu'on puisse débrancher le gamin. Le problème, c'est que le père, s'il accepte de débrancher le gamin, au lieu d'être accusé de coups et blessures, il va être accusé d'homicide involontaire. Donc forcément, il est pas con, le père. Il dit non, faut pas le débrancher, ce pauvre gamin. Enfin bon, il y a eu toute une histoire. Et maintenant, il a été débranché, le gamin, et le père est parti sur la chaise électrique, je crois.
Ceci dit, j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup ton verre avec sa conclusion générale.
Mais je demandais, la conclusion était pas très générale, mais très particulière.
C'est de l'info. Est-ce que toute info est bonne à dire? C'est éternel débat.
Non, mais
à mon avis, la conclusion, c'est que tout simplement, lorsqu'on est face à n'importe quel média, il faut faire attention,
se méfier, réfléchir,
ne pas se contenter de regarder la télévision, donc aller lire des livres, des journaux, écouter la radio, et puis
s'informer, discuter,
aller au café, discuter avec des gens, etc.
Nous écouter
et penser toujours en arrière-fond que finalement on nous prend bien pour des cons et qu'il faut s'en méfier. Ça aide.
Et lire des bouquins d'avis différents.
Et ne pas oublier que lorsque deux personnes discutent, il y a trois vérités, à savoir la mienne, la sienne et
la vérité.
Bravo. Oh,
d'accord. Sur ce.
Bravo.
Bravo. Et la prochaine fois, on n'a pas encore le thème. On essaiera de trouver un truc encore plus sérieux.
Et vous voulez pas faire un thème sur l'Inde? J'ai un super truc. L'Inde.
Sur l'Inde. Ça, c'est une pensée.
Si l'Inde. Ouais.
Le cinéma indien, là, il faut vraiment que je vous en parle, c'est grandiose.
Ouais, ça tombe bien. On parlait de Châteauroux tout à l'heure.
Ouais.
Impeccable. Moi, l'Inde.
Donc, on verra.
Bien pour l'Inde.
On verra. On va dire au revoir. Au revoir, messieurs, mesdames,
mesdemoiselles, jeunes filles,
etc. Ouais, au revoir.